Alors, le titre comprend un mot nouveau, atrologique. Atros en Grèce, ça veut dire tous ensemble ou d'un seul coup. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que derrière un certain nombre d'approches très influentes aujourd'hui dans le champ de l'environnement, il y a ce projet, cette tentation ou ce fantasme de résoudre les problèmes tous ensemble, en se mettant tous d'accord pour tout faire d'un seul coup. Et je vais essayer de vous le montrer au sujet, en utilisant comme exemple la logique patrimoniale. Donc, la gestion patrimoniale, c'est un des courants théoriques qu'on étudie dans le cadre du module. Et donc, je vais aussi vous faire une présentation de l'histoire de la gestion patrimoniale. Je vais passer très vite sur le rappel du cycle de conférences RES. Notre but, c'est d'essayer de réfléchir au lien entre les théories qu'on utilise dans le champ de l'environnement et ce qu'on essaye de faire, les positions des chercheurs. Quelle théorie peut permettre de faire quoi? Nous sommes, parmi les séances déjà écoulées, il y en a deux qui ont été consacrées à d'autres théories. La séance 8 a été consacrée à la théorie de la justification de Boltanski et Thévenot et à la recherche de la cité écologique. Et la séance 9 a été consacrée aux politiques de la nature de Latour. Donc celle-ci est la troisième et dernière des séances qui seront consacrées à l'examen d'autres perspectives. Alors évidemment, avec la gestion patrimoniale, on a affaire à une théorie qui est bien identifiée comme les autres, mais qui est de bien moindre portée. C'est une théorie qui est connue par un nombre limité d'initiés. Pourquoi elle nous intéresse ici? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle elle fait partie quand même des rares théories qui disent directement posséder des clés, des analyses pour les situations de gestion environnementale. Il n'y en a pas beaucoup et elle a cette prétention. Et puis surtout, en fait, derrière cette théorie particulière, la gestion, la doctrine ou de la gestion patrimoniale, il y a tout un ensemble d'approches, toute une nébuleuse qui partage avec elle trois points. Un, l'idée que l'action environnementale est le fait de tout le collectif. Deux, ces approches vont de la gestion patrimoniale à toutes les approches qui parlent d'apprentissage collectif, en passant par diverses approches néo-patrimoniales. On en verra un exemple. Et la troisième remarque que je voulais faire, c'est que ces approches sont aujourd'hui, d'une manière, occupent une certaine position dominante dans le champ de la gestion de l'environnement et des ressources. Qu'est-ce que je vais faire dans cette séance? D'abord, revenir en profondeur sur la gestion patrimoniale, et en particulier sur les travaux d'Henri Ollagnon et ceux d'Hervé Brédif. Mon but ici, ça va être d'entrer dans une critique aussi explicite que possible, de la théorie. Qu'est-ce qui fait, dans les bases mêmes de la théorie, les limites, et les dérives, qu'elle peut occasionner? Ce que je vais faire aussi, c'est raconter la genèse de la gestion patrimoniale, parce qu'on parle souvent de gestion patrimoniale, et je vais aussi vous raconter comment la théorie s'est construite, parce que ça a beaucoup d'importance, bah, aussi bien pour documenter ça, parce que ça n'est écrit nulle part en fait, et que pour réfléchir à la SGE, comment elle est née par différenciation, en même temps que l'approche patrimoniale se mettait à exister. Après, de manière plus légère, je vais vous montrer comment les points clés ou les axiomes clés de la gestion patrimoniale se retrouvent dans des approches néo-patrimoniales comme celle de Weber et de ses collègues au départ du réseau Green, aujourd'hui du réseau Commode. Je vais vous montrer qu'on trouve les mêmes postulats derrière les travaux de Hatuelle, Agéry, même si eux ne font absolument pas référence à la gestion patrimoniale. Au fond, les questions que je pose, elles partent de deux interrogations. La première, c'est celle de RES, donc le cycle de conférences qui porte sur le sujet d'où parle le chercheur, où est-ce qu'il faut se situer dans le jeu pour que le discours patrimonial soit cohérent et pertinent. Et la deuxième, c'est celle de la théorie de la gestion sociale de l'environnement, c'est ce qu'on fait dans le module, et c'est notre pain quotidien en matière de recherche. La question est de savoir qui gère l'environnement et comment. D'où le plan de mon intervention. On va faire une grosse première moitié sur la gestion patrimoniale. Ensuite, une deuxième moitié sur l'extension du domaine patrimonial. Et dans un troisième temps, on va reprendre le cœur du problème, c'est-à-dire le noyau dur axiomatique du programme patrimonial. Alors, les origines. Je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de parler de la gestion patrimoniale sans compter l'histoire de la nappe phréatique d'Alsace et de l'étude que lui ont consacré Patrice Berthier, Jean de Montgolfier et Henri Olagnon en 1976. Alors, racontons donc cette histoire de manière rapide. La nappe phréatique d'Alsace, elle est sous la plaine d'Alsace, qui fait 100 km de long et 30 km de large. Et la plaine d'Alsace est sur une couche extrêmement épaisse de granulats. Et donc, il y a une nappe phréatique très puissante en accompagnement du Rhin et de l'Ille, les deux rivières qui traversent l'Alsace. Et cette nappe phréatique constitue une ressource en eau abondante, de bonne qualité. Au moment où l'étude se fait, toute l'Alsace est approvisionnée directement dans une eau brute qui est directement utilisable. Il n'y a pas besoin de traitement. Tous les usages sont satisfaits directement par pompage. Le problème, c'est que déjà dans les années 70, on voit que la nappe commence à se polluer, soit par des pollutions ponctuelles. Par exemple, à la base aérienne militaire de Merxheim, il y a un réservoir souterrain de kérosène qui se fissure. On met 20 ans à s'en apercevoir. Et puis, il y a un panache de kérosène qui passe dans la nappe. Soit les terrils des mines de potasse d'Alsace qui contiennent du sel qu'on a séparé de la potasse et qu'on entasse en terril, eh bien quand il pleut, les terrils coulent et puis de l'eau salée coule dans la nappe. Et puis il y a déjà le début des pollutions agricoles. Donc, sous l'action de multiples acteurs, la nappe commence à se dégrader et je la DRAF, je crois, Direction régionale de l'agriculture, lance une étude pour voir ce qu'on peut faire sur ce phénomène. Dans un premier temps, on fait une étude technique qui montre qu'on connaît bien les causes du phénomène, qu'on peut les décrire, etc. Deux, on fait une étude économique qui montre à l'évidence que ça coûterait beaucoup moins cher d'essayer de régler ces problèmes de pollution et ces sources de pollution que de convertir toute l'Alsace, avec son économie extrêmement dynamique et sa population très dense, à un système dans lequel on pompe des eaux brutes qu'on est ensuite obligé de traiter. Mais on s'aperçoit que ces éléments ne suffisent absolument pas à régler le problème. On sait d'où vient le problème, on sait que économiquement c'est pas bien de laisser la pollution se faire. C'est pas pour ça qu'on fait quelque chose. Et donc la question de l'étude, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a les éléments techniques, économiques. Alors Berthier, Montgolfier, Olagnon commencent par faire un diagnostic administratif et ils montrent, dans un schéma absolument hallucinant, l'entrecroisement des responsabilités. Il y a au moins 30 ou 40 services qui ont des responsabilités à des niveaux différents sur l'eau de la nappe d'Alsace et sur les sources de pollution. Et le territoire lui-même est complètement cloisonné. Selon que vous êtes en surface à moins 2 mètres, à moins 10 mètres ou à moins 40 mètres, ce n'est pas la même administration qui est responsable de vous. Selon que vous êtes au droit du cours d'eau, juste à côté du cours d'eau, loin du cours d'eau, ce n'est pas la même administration. Selon que vous êtes sur des terrains privés ou publics, et donc l'espace lui-même est complètement cloisonné. Donc le problème prototypique, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a les éléments, il existe les éléments administratifs, les éléments techniques, les éléments économiques, c'est pas pour ça que le problème se résout, qu'est-ce qui manque? Voilà la question clé de la démarche patrimoniale. La forme du problème, telle que le reformulent les auteurs de l'étude, est de dire qu'au fond, ce qui manque, c'est deux choses. Un investissement de la part des acteurs, c'est-à-dire qu'il faut que les acteurs se saisissent du problème, et un déficit de liens et de relations entre les acteurs qui sont éclatés entre des structures de responsabilité qui ne voient chacune midi qu'à sa porte. Dit autrement, on va définir tous ces gens qui pourraient s'investir et entrer en relation au sujet du milieu comme les titulaires d'un patrimoine, qui est la qualité de l'eau dans la nappe d'Alsace, et centrer l'analyse non pas sur l'acteur, ni sur le milieu, mais sur l'acteur en relation avec le milieu, c'est-à-dire, on dirait en termes actuels, sur l'attachement ou les attachements entre les acteurs et le milieu. Donc, il y a une véritable innovation de cadrage en 76 à ce moment-là, qui est de dire, mais arrêtez de ne penser qu'aux acteurs ou bien au milieu, il faut travailler sur les attachements. C'est ça l'hypothèse de base de la gestion patrimoniale. Donc, pendant quelques années se font des travaux, et la forme de la solution, je l'ai résumée dans les termes suivants. La citation que j'ai mise là, elle est tirée du premier rapport que j'ai écrit en 1981. J'avais travaillé avec des gens qui avaient travaillé avec Bertie Ollagnon et avec eux pour essayer de synthétiser les idées de cette gestion patrimoniale qui était en émergence. Et donc, la forme de la solution, c'est une gestion patrimoniale passe par 1. La prise de conscience de l'intérêt de faire quelque chose, de chercher une meilleure gestion d'un bien particulier. 2. Le repérage des titulaires, c'est-à-dire de ceux qui ont des attachements potentiels avec l'objet, qui sont les acteurs patrimoniaux. Et la reconnaissance de ce statut de titulaire par les décideurs actuels. Là, vous voyez une petite connexion avec Ostrom. 3. La mise en place de nouveaux comportements, de nouvelles relations entre groupes autour du bien considéré. 4. La négociation des principes de gestion de ce bien. 5. Le recueil d'informations adaptées. 6. Des montages institutionnels nouveaux qui lui permettent de fonctionner. Comportement, relations, langage, institutions changent ensemble si cela change concrètement. C'est ce que j'avais écrit à l'époque. Il y a bien une troisième voie entre développement à tout craint et conservation muséographique. Donc vous voyez que je m'inscrivais dans la cohorte de ceux qui essayaient de voir s'il y avait une autre solution que l'opposition entre environnement et développement. Alors, on va voir ce qu'est devenu cette gestion patrimoniale, mais avant ça, il faut que je fasse un petit retour sur les antécédents pour voir d'où elle est sortie. D'abord, il faut se replacer dans les années 70 dans un contexte qu'on peut qualifier de manière très résumée de technocratique, c'est-à-dire un contexte dans lequel on considère que chaque problème constitue un problème public, la pollution de la nappe est un problème public, et chaque problème doit être traité par un acteur qu'on considère comme rationnel. Au fond, on est dans la logique qui transpose la logique de l'ingénieur. Il y a un problème à résoudre et un responsable qui doit trouver la solution. On transpose cette logique à la vie publique en disant « il y a un problème public ». Et puis, il y a un décideur qui doit trouver la solution à ce problème public. Toute cette optique-là, qui a été développée depuis les années 45 par la recherche opérationnelle, par tous les travaux qui cherchent une optimisation dans la résolution des problèmes, va être remise en question au cours des années 70 de plusieurs manières. D'abord, à partir de la recherche opérationnelle elle-même, c'est-à-dire que les gens qui font des mathématiques appliquées pour l'optimisation des choix débouchent assez rapidement, dans un premier temps, sur l'analyse multicritère. Et oui, on va essayer de résoudre un problème, mais les critères, il y a plusieurs critères d'évaluation de la performance dans la résolution de ce problème. Et ces critères ne sont pas complètement compatibles. Donc, on va essayer de faire des évaluations multicritères, c'est-à-dire de trouver la bonne solution compte tenu du fait qu'il y a plusieurs critères. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit, et c'est là, alors là on peut essayer, il y a des méthodes mathématiques pour essayer de balancer les critères les uns avec les autres, je pense à la méthode Electre de Bernard Roy par exemple, mais d'un seul coup on va prendre conscience d'un élément supplémentaire, c'est que ce ne sont pas les mêmes acteurs pour qui les différents critères comptent. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est uniquement un problème technique d'arriver à équilibrer entre les critères. Ça devient un problème politique, puisque la balance qu'on fait entre les critères est une balance qui désavantage tel acteur ou tel autre, et donc qui constitue un problème politique et plus un problème d'optimisation. De plus, les années 70, c'est la montée des approches systémiques et la prise de conscience qu'il y a bien peu de problèmes qu'on peut traiter isolément, puisque les différents éléments des systèmes sont reliés les uns aux autres. Et donc, au fond, il y a des phénomènes de feedback, des effets pervers, des effets de seuil, etc., qui font que on est dans un univers systémique où l'optimisation n'a plus le même sens que dans la recherche opérationnelle. Ça, c'est une cause interne aux travaux théoriques qui, petit à petit, commence à craquer dans leurs limites. La deuxième remise en cause, elle vient de la naissance des politiques environnementales et de la prise de conscience que les cadres mêmes de l'action publique de l'État en France sont construits d'une manière qui ne peut pas prendre en compte l'environnement, et c'est le cas en particulier de la comptabilité nationale. Donc dès le début des années 70, des groupes d'experts ont été mis en place, avec des économistes comme Ignace Issax ou Claude Henry comme experts, des experts comme Jacques Attali ou Jacques Tess, pour essayer de voir si on pouvait, dans l'architecture même des systèmes de gestion étatique, faire une place pour l'environnement. Et leur principale innovation qu'ils cherchaient, c'était de mettre en place une comptabilité du patrimoine écologique de la France qui permettrait, dans la comptabilité nationale, de compter aussi le patrimoine en eau, le patrimoine forestier, et de pouvoir mettre en balance le développement et la consommation des ressources, disons ce qu'on pourrait appeler le capital naturel. Donc ici, le patrimoine était pris comme un capital naturel de la nation. Alors, donc, dans l'étude Nappe d'Alsace, Berthier et Montgolfier collaboraient depuis à peu près un an, et Olagnon est arrivé, sortant de Sciences Po à ce moment-là, porteur d'une certaine idée du patrimoine. Si on l'écoute lui, c'est lui qui avait l'idée du patrimoine. En même temps, il y a eu, sur le littoral méditerranéen, une mission Storelli, qui, dans la tradition des grandes missions de l'État, avait pour but de voir si on pouvait, elle avait un double but, s'intéresser au problème du littoral méditerranéen et des incendies de forêt, qui commençaient à être un grand problème à cette époque-là. Que faire avec la forêt méditerranéenne qui emmerde tout le monde, qui ne produit rien du tout, qui est très jolie, mais qui brûle. Et donc, l'idée, c'était de tester, pour résoudre un problème concret, les idées de comptabilité patrimoniale qui étaient mises au point depuis le début des années 70 par les experts du fameux groupe interministériel d'évaluation de l'environnement. D'où études pilotes sur les feux de forêt par Jean-Marc Nathalie, Montgolfier et Berthier. C'est les fameuses études sur la Corse hein, que je relate dans le premier chapitre de mon bouquin de 92. Ce qui est donc important de voir dans cette genèse, c'est que l'idée de gestion patrimoniale naît à la confluence de plusieurs courants de pensée qui viennent de points complètement différents et qui vont se nouer dans cette formule gestion patrimoniale. Donc le premier courant, je récapitule, c'est un courant économique et organisationnel. On est sur la comptabilité, les logiques d'acteurs et l'évolution de la recherche opérationnelle. C'est Berthier et Montgolfier qui reflète cette évolution. Patrice Berthier, qui est passé des mathématiques appliquées à la réflexion sur les jeux d'acteurs dans l'environnement. Le deuxième courant, c'est tout le courant systémique, avec la montée dans les années 70 de l'étude des écosystèmes comme système, et puis toute la littérature d'Edgar Morin, etc., sur la société prise comme un système, le macroscope de Joël de Ronet, etc. Le troisième courant, c'est le courant sociopolitique qui était porté par Henri Olagnon, qui avait, lui, comme mot-clé, les idées d'identité, d'appropriation et d'investissement patrimoniaux, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des questions de lien social et d'attachement qu'il fallait aborder. Et puis, dans la formule gestion patrimoniale, il y avait aussi une forme de promesse qui était de récupérer, dans ce contexte plus large, toutes les approches du courant conservationniste, c'est-à-dire les approches en termes de patrimoine naturel, heritage en anglais, et patrimoine culturel, qui étaient en plein développement depuis les années 60. Donc, quelque part, pourquoi à la fin des années 70, cette formule magique gestion patrimoniale a été vécue comme une promesse très forte par les gens qui la portaient et par ceux qui l'entendaient, c'est parce que c'était l'espoir d'arriver à nouer ces courants différents entre eux pour aller au-delà des impasses qu'on percevait dans les solutions purement technico-administratives. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que j'anticipe un peu sur la suite de l'histoire, cette innovation a fait l'objet de conflits d'appropriation. C'est moi qui l'ai inventé, dit l'un. Non, c'est nous ensemble, dit l'autre. Et ces conflits d'appropriation, ils sont analysés au regard de cette, de ces, de, de cette confluence. En clair, si Henri Ollagnon revendique aujourd'hui la totalité de la paternalité de l'approche patrimoniale, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui encore, il ne voit d'intéressant dans la gestion patrimoniale que ce qu'il y a apporté, c'est-à-dire la dimension identitaire d'appropriation et d'investissement patrimonial. D'une certaine façon, dans le nœud, pour lui, il n'y a que son fil à lui qui possède une valeur. Et ça explique un peu l'impasse des discussions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gestion patrimoniale qui a été portée sur les fonds baptismaux à la fin des années 70? J'ai, pour les cours du module, et j'ai repris il y a quelques années la pile des documents qui ont été écrits là-dessus entre 76 et 81. Ils sont très peu nombreux. Et j'ai essayé de montrer, de dégager quels étaient les points fondateurs, disons les axiomes de base, qui étaient avancés à l'époque par les créateurs de la théorie. Au fond, il y en a sept. Le premier, c'est qu'il faut assumer une fois pour toutes qu'il y a une pluralité de points de vue et d'acteurs qui n'est pas réductible à un seul point de vue. Le deuxième, c'est qu'il faut porter attention aux questions de titularité, encore une fois on dirait attachement aujourd'hui, ou d'appropriation, de propriété et d'identité des acteurs. Trois, au lieu d'avoir une conception statique, qu'on renvoie toujours à tort à l'idée des aires protégées par exemple, il faut avoir une conception relationnelle et évolutive de la gestion. On ne peut pas enfermer la gestion dans des boîtes, et donc il faut avoir une conception dynamique et relationnelle de la gestion. 4. Il faut privilégier la négociation comme principe de gestion. 5. Il faut raisonner à long terme, dans des termes intergénérationnels. 6. Il faut sortir des approches sectorielles, cloisonnées, parce que c'est elles qui nous empêchent d'avancer. Et 7. Il faut dépasser les approches technico-administratives. C'était ça les principales prises de position de ce mouvement patrimonial naissant. Alors, on retrouvera ça à plusieurs étapes dans l'exposé. À ce stade-là, ce que je veux vous montrer, c'est que, au fond, ces positions, elles sont délibérément symétriques des positions ou antagonistes des positions technocratiques, donc qui elles veulent qu'il y ait un décideur et un intérêt général, qu'il y ait un traitement collectivisé ou privatisé des problèmes, auquel on attribue un traitement figé et rigide, auquel on attribue une action étatique sans négociation, auquel on reproche d'être à court terme, auquel on reproche leur cloisonnement administratif. L'idée, c'est donc de sortir de la technocratie. Les textes sont relativement clairs. Alors, après cette genèse et ce plutôt que cahier des charges, j'aurais presque pu dire le manifeste de la gestion patrimoniale, on arrive au développement de l'approche. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 80, cette approche qui était purement exploratoire, qui avait été postulée dans deux ou trois études sur la nappe phréatique et les forêts méditerranéennes, a été prise à son compte par la direction des affaires financières et économiques du ministère de l'Agriculture, dans son bureau des études de la prospective et de je ne sais pas quoi. Le ministère a embauché Henri Ollagnon et donc a lancé un programme pilote pour développer, rendre opérationnel cette approche patrimoniale et pour en faire finalement l'approche des services du ministère de l'Agriculture. Pour faire ça, la méthode choisie, ça a été de lancer des études pilotes. Donc c'était sur des budgets qui étaient à l'époque de l'ordre de 100 000 euros. Donc c'était il y a 25 ans. Donc vous voyez ce que c'est un budget de 100 000 euros il y a 25 ans pour faire une étude pilote avec trois études de cas locales. Donc deux études pilotes principalement ont servi à construire la boîte à outils de la gestion patrimoniale, celle sur la Sèvre nantaise. En gros, le sujet d'étude est banal aujourd'hui, c'était la gestion sociale du bassin versant d'une rivière qui fait à peu près 100 km de long avec 3 ou 4 affluents. Et le deuxième, c'était la restauration des terrains en montagne. Le problème aussi est classique aujourd'hui, c'est quelle est la gestion sociale des risques naturels dans des montagnes où il y a des glissements de terrain, des inondations, des avalanches. Comment s'articule la gestion administrative des risques et la gestion sociale des populations pour se mettre à l'abri des risques. Le lancement de ces études pilotes a permis d'embaucher des gens en bureau d'études qui se sont ajoutés aux créateurs initiaux, Gilles Barouche, qui sortait d'HEC, Jean-Marc Nathalie, qui sortait de l'ESSEC, Françoise Hennel, qui était une sociologue déjà un peu plus expérimentée, moi-même, et quelques autres encore moins impliqués. Et donc, au total, il y a un réseau d'une, je sais pas, 8 ou 10 personnes très impliquées, plus des satellites autour qui discutaient et qui ont travaillé d'arrache-pied sur cette question, en gros, de 1981 à 1985. Donc là, on est passé du simple cahier des charges et des principes affichés au développement d'un certain nombre de concepts et de méthodes. Ça vaut peut-être le coup d'essayer de dire qu'il y avait une ambiance très particulière de créativité dans cette période. Vous imaginez, on arrivait juste, on était jeunes, on était sur des positions qui, à l'époque, étaient innovantes, et puis on nous embauchait sur des problèmes réels et qui, à l'époque, étaient perçus comme nouveaux. La gestion sociale d'un bassin versant, ce n'était pas standard. Donc, il y a eu une véritable effervescence. On discutait tout le temps, on inventait des concepts. Chacun des rapports d'études propose des concepts nouveaux, concepts qui ont été, pour la plupart, repris ensuite par les uns par les autres et par l'approche qu'Henri Ollagnon porte depuis. En 87, en gros, cette phase s'est terminée. Cette phase de créativité s'arrête. Comme point final, elle a des textes de synthèse, dont deux textes qui sont directement centrés sur la gestion patrimoniale. L'ouvrage de Montgolfier et Nathalie sur le patrimoine du futur, auquel Gilles et moi avons également participé. Et un texte renéotypé d'Henri Ollagnon qui s'appelle « Une nécessaire rencontre des approches théoriques et pragmatiques de la nature, l'audit patrimonial de type système acteur » et qui contient les bases de l'approche Ollagnon de l'audit patrimonial. Ce mouvement d'innovation, qui aura duré quelque chose comme 5 ou 6 ans, aura un écho au-delà, avait pas mal d'écho, hein. Beaucoup de gens considéraient que c'était un des endroits où il se passait quelque chose, et parmi les échos les plus nets qu'il a eu, on peut noter les reprises des thèmes patrimoniaux par des chercheurs comme Olivier Godard, qui a pas mal écrit sur la question dans les années 90, et disons à partir de la fin des années 80, il suivait ce qui se passait, hein, et Godard lui-même dans son rapport sur la thèse d'Ollagnon explique que c'est bien un apport direct de ce réseau patrimonial que ces thèses que lui ensuite a développées sur le patrimonial. Et de manière plus récente, Franck-Dominique Vivien a aussi repris et essayé de prolonger ces thèmes. En même temps que l'effervescence collective, la créativité du groupe se tarit entre 85 et 87, finalement, les personnes du groupe divergent. Et ça aussi, ça vaut le coup de le voir si on veut comprendre l'évolution des idées dans le domaine. D'abord, il y en a qui retournent vers la pratique. Puisque l'audit patrimonial ou la gestion patrimoniale revendique une posture pragmatique, c'est dans le titre même de l'Ollagnon, eh bien, il y en a qui disent, mais nous, ça nous a ouvert les yeux, cette approche, sur ce qui se passe dans les conflits entre les acteurs. Maintenant, on va aller gérer des conflits entre acteurs. Donc Jean-Marc Nathalie, lui, crée un bureau d'études pour faire les mêmes choses, mais en ville, et moins dans une optique d'innovation méthodologique que de service aux acteurs. Et Françoise Hennel, elle continue sa pratique de sociologue spécialiste des enquêtes qualitatives, sans investir particulièrement la dimension patrimoniale, mais en faisant plus confiance à l'art de l'enquêteur, à une sorte de savoir-faire de sociologue. Deuxième trajectoire, celle de Gilles Barouche. Donc lui, il va revenir à un aspect générateur des théories patrimoniales, qui est l'approche systémique de l'école de Palo Alto. Et il va faire sa thèse là-dessus, qui sera publiée en 89 avec une préface de Crozier, et qui est publiée sous le titre « La décision en miettes ». Donc lui, il choisit une voie d'approfondissement théorique dans l'optique de Palo Alto. Montgolfier, lui, il va partir dans une optique, qui est un ingénieur du greffe, hein, il va partir dans une optique qui est de dire « Ok, on a créé cette approche patrimoniale parce que les approches technico-économico-administratives n'étaient pas suffisantes, qu'il manquait une dimension supplémentaire pour susciter l'engagement des acteurs. Mais donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est avoir une approche plus complète qui prenne en compte ces différentes dimensions et qui ajoute la dimension patrimoniale aux autres approches technico-administratives ou économiques, mais sans les jeter à la poubelle, qui considère ça comme un complément aux approches classiques de gestion administrative de la nature. Bon, en ce qui me concerne, j'ai pris le tournant que vous savez, un tournant stratégique que j'ai raconté lors de la séance RES 6 sur mon travail de thèse. Et puis, dernière trajectoire, celle d'Henri Aulagnon, qui a décidé de procéder à une normalisation méthodologique et doctrinale de la gestion patrimoniale. Donc lui, son objectif, ça a été de tirer de tout ce mouvement un peu foisonnant d'innovation, une doctrine et une méthode. Si bien que, à partir de 1989, tout le monde a abandonné le label patrimonial, sans renier pour autant ce qui s'était passé, et que le label patrimonial n'a plus été utilisé que par le courant Aulagnon. Donc Henri Aulagnon lance un courant d'audit centré sur l'audit patrimonial, moins large donc que la gestion patrimoniale, avec une seule méthode, une seule grille de lecture, IDPA, identification, diagnostic, prospective, action, on verra, une doctrine unique, c'est-à-dire un discours théorique stable, stabilisé, et puis un horizon pratique, c'est-à-dire l'idée qu'en gros, la manière de résoudre les problèmes de gestion de la nature, c'est de créer des institutions patrimoniales en mettant autour de la table tous les acteurs qui ont des attachements aux objets auxquels on s'intéresse. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est d'organiser ça, pour utiliser ces mots à lui, de manière sécurisée. Moi, je dirais plutôt de manière close, c'est-à-dire que les méthodes vont être codifiées, il n'est plus question de s'écarter de la méthode type. Les auditeurs vont recevoir tous la même formation pour que l'écoute soit normalisée, en fait, puisque tous les auditeurs ont reçu la même formation. Et puis, on installe un système de certification des interventions, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il appelle la sécurisation, c'est que on sait qui a formé les auditeurs, on sait exactement quelle est la méthode utilisée et on est sûr qu'il n'y aura pas d'innovations qui seront introduites et qui risquent de déstabiliser ce qu'on en attend. Et puis, celui qui forme les auditeurs est aussi celui qui valide la qualité des études et qui indique aux clients à quoi il faut faire appel. Donc, il y a une association qui a été créée à l'échelle nationale pour que les clients, les auditeurs et la formation et l'instance de formation des auditeurs soient supervisés sous le même regard, de façon à ce que tout soit stabilisé et sécurisé, pour reprendre l'optique d'Henri Aulagnon. Cette approche est toujours celle qui est enseignée aujourd'hui, donc depuis la fin des années 80, à l'Institut national agronomique, dans le cadre de la spécialité « Gestion du vivant » et stratégie patrimoniale. Alors, on peut faire un petit bilan quand même de ces... En gros, depuis 87, rien n'a bougé dans la doctrine patrimoniale telle qu'elle est défendue aujourd'hui par Aulagnon et Brédif. Je reprends les mêmes 7 principes de mon tableau et j'essaye de regarder, 30 ans après... ce qu'on peut en dire, comment ils nous apparaissent, ces principes. À l'époque, ils nous paraissaient révolutionnaires, ils étaient un véritable coup de tonnerre dans la manière de concevoir le règlement des problèmes. La pluralité des acteurs et des points de vue, aujourd'hui, je pense que c'est une évidence. Je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui même d'étudiants qui imaginent le traitement d'un problème de société complexe autrement que comme une discussion entre des acteurs qui ont des points de vue différents autour de la table. On est déjà au-delà de la génération Cavada. Cavada, c'est le monsieur qui a créé les émissions de télé où on mettait tout le monde autour de la table et chacun défend son point de vue, un peu comme le « ça se discute » de la rue maintenant. Et lorsque les étudiants rentrent à l'ENGREF, qui en 1976 était le temple de la technocratie technico-économico-administrative, la première chose qu'ils font en rentrant à l'ENGREF, c'est un exercice environnement et situation locale qui consiste à aller demander leurs avis à tous les acteurs et à prendre conscience du fait ou à constater que tous les acteurs ont des points de vue différents. Donc ça, c'est aujourd'hui une évidence. À l'époque, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est une évidence. L'idée qu'il y a un lien, qu'il y a beaucoup d'importance à attacher aux attachements, à la propriété, à l'identité ethnique ou groupale ou locale dans la gestion des ressources, ça a été énormément développé depuis, d'une part par l'école des Commons, sous la houlette magistrale d'Elinor Ostrom, et d'autre part par toutes les approches des anthropologues qui n'arrêtent pas de souligner le caractère crucial des questions d'identité, de propriété dans la gestion de la nature. Donc à l'époque c'était nouveau, aujourd'hui c'est mainstream. L'idée qu'il faut une conception relationnelle et évolutive de la gestion des systèmes naturels, c'était nouveau à l'époque. Et en 1978, il y a des Canadiens qui ont sorti un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « Adaptive Environmental Assessment and Management ». Et donc, depuis, donc ces Canadiens, c'était sous la houlette de Holling, un écologue bien connu. Et donc la panarchie, toute la théorie de la panarchie de Gunderson et Holling, elle vient de ce stream-là. Et toutes les méthodes de modélisation, d'accompagnement qui se développe en France aujourd'hui, elle repose exactement sur les postulats du livre de Holling de 78, Adaptive Environmental Assessment and Management. Donc là aussi, ça nous emmènerait trop loin, vraiment. On voit bien que l'approche patrimoniale, elle était bien à la pointe de son temps, puisque en 78, les Canadiens sortent leur bouquin sur l'approche évolutive adaptative. C'est un des principes clés qui était dit en 76 dans les documents de Berthier, Montgolfier et Olagnon. Mais donc, 30 ans après, c'est quelque chose d'assimilé. Privilégier la négociation, à l'époque c'était nouveau, aujourd'hui c'est une tarte à la crème. Si je vous dis, il faut privilégier la négociation dans la gestion des ressources naturelles, vous allez me dire, ouais. Le raisonner à long terme, de manière intergénérationnelle, ça aussi, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Mais vous rappelez que ça a été institutionnalisé en 1987 par le rapport Brundtland. Dans la définition Brundtland du développement durable, il s'agit de gérer les ressources de façon à ce que les générations futures puissent en profiter aussi. Quant au fait de sortir des approches sectorielles, ça aussi, c'est devenu depuis 25 ans le chantier principal dans le domaine de l'environnement. On a introduit pour ça les notions de développement durable, de gestion intégrée, qui toutes ont pour but de transcender la gestion sectorielle. Et dans une thèse récente au jury de laquelle j'ai siégé, la doctorante cite des auteurs qui écrivent à propos de la gestion intégrée, « It's the only game in town ». Ça veut dire, de toute façon, tu ne peux pas raisonner autrement qu'en termes de gestion intégrée aujourd'hui. Donc le bilan vaut quand même la peine de voir que toutes ces idées pionnières de la fin des années 70 sont les idées instituées d'aujourd'hui. Aucune de ces idées n'a plus aucun caractère de nouveauté par elle-même. On va y venir. Alors, or, de manière très étonnante, on va se concentrer maintenant donc uniquement sur le courant, disons, de la doctrine orthodoxe patrimoniale telle qu'elle est défendue par Olagnon, Brédif et ceux qui appliquent leur pensée. Comme c'est une pensée normalisée, cette application est très facile à identifier puisqu'elle consiste à reprendre le discours dans tous ses aspects et la méthode unique puisqu'il y a une seule méthode. Donc, on bénéficie heureusement depuis peu, depuis en gros 10 novembre 2004, de la thèse d'Hervé Brédif, qui est pour la première fois, depuis 1987, une mise en ordre publiée, et donc qu'on peut discuter dans un cadre académique, des idées de la gestion patrimoniale telles qu'elles se sont transmises sans changement de 1987 à aujourd'hui, c'est-à-dire sur 20 ans de continuation de ce courant de pensée et de pratique. En effet, dans la thèse de Brédif, l'objet de la thèse de Brédif est bien de présenter et de défendre cette approche patrimoniale, et la thèse de Brédif est conforme en tout point aux différents textes de Lannion du milieu des années 80. Il n'y a pas d'idée qui soit dans cette thèse et qui n'était pas dans les textes d'Henriot Lannion. Par ailleurs, je ne cite pas la thèse d'Henriot Lannion qui a été soutenue à la fin des années 90 parce qu'elle n'est pas vraiment publique, je ne crois pas qu'on puisse se la procurer, et elle est rédigée dans un style qui rend très difficile sa discussion sur un plan académique. Alors, dans ce travail, quel est le projet au fond de Brédif? C'est de défense et illustration et surtout élaboration théorique de la gestion patrimoniale dans des termes qui puissent montrer que c'est une approche nouvelle et géniale pour résoudre les problèmes de ressources naturelles pour aujourd'hui, quoi. L'approche est illustrée par 5 études de cas. Une étude de cas internationale qui porte sur la certification des bois, les labels écologiques sur les bois, et 4 études de cas locales en France. Je vous les résume en 10 secondes chacune. La vallée de l'Ars, c'est une petite vallée en Champagne avec une petite rivière qui s'appelle l'Ars, où la qualité de l'eau est gravement compromise par le développement intensif des vignobles de Champagne, pesticides, érosion, dégradation du milieu, etc. Val inondable de la Charente, c'est la mauvaise gestion de la zone humide alluviale du fleuve Charente. Forêt de Belledonne, c'est le fait que les forêts du massif de Belledonne autour de Grenoble peinent à être gérées correctement, que leur gestion patine, si on peut dire. Et plateau de Saclay, c'est le fait que ce plateau, qui est en gros la dernière zone agricole de bonne taille, elle fait 2000 hectares, enclavée dans la banlieue parisienne, peine à trouver un aménagement stable ou des perspectives à long terme, et qu'elle est grignotée petit à petit par l'installation d'instituts techniques, de bâtiments, etc., etc. Par ailleurs, il faut quand même noter, avant de rentrer sur une tonalité critique dans la thèse, que c'est extrêmement bien rédigé, que l'auteur est manifestement très cultivé, et donc qu'on est sur des bases qui permettent vraiment de discuter. Premier point de critique de la thèse. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette thèse, d'abord, se situe dans un autisme complet par rapport à tous les travaux des années 90 et 2000 sur la gestion de l'environnement. L'objet de la thèse, c'est le vivant, les hommes, le territoire, c'est vraiment comment on gère les systèmes vivants. Et la thèse ne lit pas, ne connaît pas, pour l'essentiel, les travaux qui ont eu lieu sur cette question. Je vous en donne juste un exemple qui montre... Alors donc, elle appelle à la négociation, mais pratiquement aucun des travaux sur concertation et participation qui ont proliféré depuis ne sont cités. En ce qui concerne les terrains, ce n'est pas des terrains très originaux. Zones humides alluviales, forêts périurbaines, etc. Il y a des milliers de travaux qui ont été écrits en France là-dessus. On verra que, par le biais de la méthode patrimoniale, l'auteur s'estime affranchi de lire et de citer quiconque ayant travaillé soit sur ces zones, soit sur des objets similaires, puisque la vérité réside dans le dire des acteurs, curieusement. Et alors, l'exemple qui évidemment me va droit au cœur, c'est qu'il y a 2 pages cruciales où il parle de ce que c'est que la gestion de l'environnement. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'il cite que 2 ou 3 personnes. D'abord, il cite Bernard Baraquet, sauf qu'au lieu de l'appeler Bernard, il l'appelle François. Ce qui est quand même un acte manqué assez bizarre. Et ensuite, on me cite sur un point absolument mineur, et dans une note de bas de page, où on explique que Mermet ne donne pas à proprement parler dans son livre de définition du terme « gérer ». Donc, mon travail ne comporte pas de définition du terme « gérer ». et n'est pas discutée. C'est-à-dire que, par ailleurs, aucun auteur de sciences de gestion n'est mentionné. Personne n'a réfléchi sur la gestion. Et on trouve cette citation qui est remarquable. Je cite cette fois-ci. « Il ne se trouve guère que la définition proposée par Henri Ollagnon pour satisfaire aux exigences de clarté et de précision. » Ce dernier définit en effet la gestion comme, la, je cite, alors là cette fois-ci il cite Ollagnon, « la capacité d'un complexe multi-acteurs de définir, d'atteindre et de maintenir un certain état de qualité qu'il s'est donné comme objectif. » Fin de citation. Alors évidemment, on reste pantois devant l'idée que personne n'a réfléchi à ce que c'est que la gestion en général et la gestion de l'environnement en particulier, sauf Henri Ollagnon. Mais il y a un côté symptomatique dans cet autisme. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On n'est pas là pour juger une thèse. On est là pour comprendre comment fonctionne un certain mouvement de pensée. Et donc cet autisme, c'est quand même une caractéristique extrêmement particulière. Je reviendrai sur la définition parce qu'elle a un très grand intérêt. Une partie des dérives de la gestion patrimoniale comme théorie de gestion de l'environnement sont inscrites dans cette définition. C'est vrai qu'elle a le mérite de la clarté, mais elle n'a ni le mérite de l'unicité, ni le mérite de pouvoir servir de base vraiment à une gestion. Par ailleurs, il est clair quand on lit le texte, avec un sous-titre « Essai de biogéopolitique » et quand on voit la conclusion du texte, que ça se revendique comme extrêmement original et extrêmement ambitieux. Donc il y a un certain décalage entre ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les idées de base de la gestion patrimoniale sont aujourd'hui de connaissances communes et font le bon sens d'aujourd'hui, si on veut, et la revendication réitérée du fait que c'est révolutionnaire, que ça change tout. Alors, je vais rentrer dans la critique. Est-ce que j'avais mis le plan ? Ouais. En plusieurs étapes. Donc là, je viens de vous présenter la thèse. Je vais vous développer quatre thèmes sur la thèse qui permettent de vraiment mieux comprendre quel est le problème avec les approches patrimoniales. D'abord, je vais vous montrer qu'à la base de cette approche patrimoniale, il y a un impensé sectoriel très fort. Vous vous rappelez que j'en avais parlé à propos des démarches de recherche. L'idée est très simple, c'est qu'en fait, ces auteurs qui se revendiquent d'une logique globale sont porteurs d'une logique agricole ou forestière, c'est-à-dire la logique du secteur agricole ou du secteur forestier. Et ça, on va le voir de manière étonnante quand on lit la thèse. Le deuxième, c'est que toute l'élaboration théorique est construite de manière d'ailleurs délibérée pour rendre impensable un point de vue environnementaliste. C'est-à-dire que pour toutes les catégories de pensée qui sont constructrices d'une politique environnementale portée par un ministère de l'Environnement, par exemple, ou par des associations environnementales ou des agences d'environnement, pour que ça devienne impensable, pour exploser le discours environnementaliste. La troisième, c'est que je vous montrerai que l'unité de problème et d'action est le postulat central de la théorie. Donc là, on viendra sur le thème de l'atrologie. Et puis, ensuite, on s'intéressera à la position de l'auditeur. Quel est donc cet analyste qui, avec des idées d'il y a 30 ans, porte aujourd'hui une démarche qu'il considère comme révolutionnaire ? D'où il parle ? Comment il raisonne pour avoir cette ambition ? Alors, on va commencer donc par l'impensé sectoriel. Dans le cas de Lars, c'est donc l'auteur débarque sur le terrain pour faire un audit patrimonial de cette petite vallée. C'est une rivière qui fait 20 km de long, c'est une toute petite rivière. Le chapitre sur cette étude de cas commence par le constat que la motivation initiale ne porte pas sur la gestion du problème de l'eau, mais que désireux de renforcer les champs de compétences de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le directeur de cette direction a identifié la gestion de l'eau comme une question potentiellement porteuse pour un redéploiement de ses services. Donc, on part sur une approche globale qui veut construire une gestion de tous les acteurs, mais la motivation et le paiement de l'étude, c'est un acteur sectoriel, en l'occurrence agricole et forestier, qui veut reprendre la main et dynamiser ses services. Je fais une remarque en passant. Peut-être que vous avez vu mes travaux sur l'ours. La demande d'audit de l'ours était une demande de la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques dans un but de redynamiser les services de la DDA pour la construction d'équipements agricoles en montagne. Donc, on est sur le même type de constat. Ensuite, quand on regarde les entretiens qui ont été conduits, chaque audit consiste à faire 25 ou 30 entretiens dans chaque localité d'une certaine manière. Donc sur la vallée de l'Arse, ils ont fait une trentaine d'entretiens, plus une dizaine ou une quinzaine d'entretiens à l'échelle départementale. Or, on s'aperçoit que la plupart des entretiens sont agricoles. Pas tous, mais la plupart. Et pendant tout l'exposé du cas, l'équation suivante, habitant de la vallée égale producteur de champagne, est respectée. C'est-à-dire que l'auteur considère que les habitants de la vallée, c'est les producteurs de champagne. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, on est vraiment dans une démarche qui est portée par le secteur agricole et qui l'inscrit au centre de la société. Dans le cas du plateau de Saclay, on va faire des constats tout à fait similaires. La demande initiale vient d'une association agricole humaniste, une association un peu atypique qui existe depuis le XVIIIe siècle, si j'ai bien compris, et qui est là pour que des agriculteurs réfléchissent ensemble à la fois au progrès technique et au progrès de l'humanité à travers l'agriculture. On est assez proche dans les idées de l'association Sol et Civilisation, qui est elle-même très proche d'Henri Ollagnon et de l'audit patrimonial. Sol et Civilisation, c'est une association qui a été créée par un ancien président de la FNSEA pour dire... voilà, c'est nous qui pouvons être les promoteurs d'une approche commune, globale et humaniste de l'environnement et des ressources et du développement. Je passe sur l'étude. Donc, vous rappelez le problème, c'est la dernière zone un peu agricole et naturelle de grande taille dans la banlieue parisienne. On débouche sur 5 recommandations. 1. Il faut reconnaître le caractère exceptionnel du plateau de Saclay. Bon. 2. À territoire exceptionnel, projet exceptionnel. Et là, je cite, il ne s'agit plus de tendre à l'excellence dans tel ou tel domaine. L'excellence est recherchée dans la composition réussie entre des richesses et des enjeux a priori très différents. Dans cette recommandation, l'auteur appelle avec énergie à une désectorialisation. Il faut arrêter de raisonner par secteur, et en particulier le secteur technico-scientifique, l'école polytechnique, l'ENSAE, etc., le secteur HLM logement, etc., il faut désectorialiser. Troisième recommandation, mettre l'agriculture du plateau en condition de répondre pleinement aux différents enjeux de ce territoire. Donc, vous voyez que la désectorialisation, je vois que la saveur ne vous échappe pas, la désectorialisation vaut pour tout le monde, sauf pour l'agriculture, parce qu'elle, elle n'est pas... D'une certaine façon, elle n'apparaît pas sectorielle, elle est au centre. Donc, on désectorialise tout le monde, sauf le secteur porteur de l'audit, qui est ici le secteur agricole. Ensuite, on débouche sur la nécessité d'un pilotage unitaire. C'est un peu l'idée de l'institution patrimoniale, qui revient dans tous les audits patrimoniaux. Et puis, on insiste sur le fait qu'il faut placer la gestion du territoire sous le signe du lien convivial. Alors, ce dernier point peut paraître banal, mais en fait, il est un fil conducteur de tous les audits patrimoniaux et de la doctrine patrimoniale. C'est un point clé de l'approche d'Ollagnon et Brédif, de dire que tant qu'on est dans une atmosphère de conflit, on ne peut rien faire, et donc qu'il faut être dans la convivialité et dans la confiance. La question qui se pose évidemment pour moi, c'est est-ce que la convivialité et la confiance peuvent se décréter ? Donc il y a à la fois un secteur qui se met au centre et qui réclame convivialité et confiance pour qu'on travaille. Troisième exemple d'impensé sectoriel de démarche, le cas de la forêt de Belledonne près de Grenoble. Donc la demande initiale vient de l'interprofession forêt-bois. Cette fois-ci, c'est le secteur forestier qui est à l'origine de la demande. Leur problème, donc ça n'est que des citations ce que j'ai mis là. Hein. Leur problème, c'est qu'ils s'aperçoivent que la gestion de la forêt ne peut plus s'appuyer sur la filière et l'économie du bois uniquement. En clair, ça veut dire que le bois, ça rapporte plus assez pour porter la gestion de la forêt privée dans le massif de Belledonne. Et donc, En conséquence, le projet, c'est de créer un dispositif de rencontre de tous les acteurs et de prise de décision pour une gestion globale de la société, par toute la société de la forêt. Et d'assurer, autre recommandation, il faut assurer une représentation légitime des élus des collectivités territoriales concernées, et puis aussi de tous les acteurs de la société concernés par l'usage de la forêt et du bois. Et on conclut les recommandations en disant, dans l'attente de cet outil de facilitation, donc d'une gestion collective, portée collectivement, eh bien, il faut donner mandat à l'interprofession de la forêt et du bois pour poursuivre, dans l'esprit décrit ci-dessus, convivial et en confiance, la mise en œuvre de la charte. Donc, là encore, on retrouve une inscription sectorielle au centre du projet qui est présenté comme global. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne veux pas par là dévaloriser la démarche. Prenons l'exemple du plateau de Saclay. C'est vrai que dans un contexte d'urbanisme et de développement technologique qui est celui du plateau de Saclay, l'agriculture peut être oubliée. Et qu'une étude qui rappelle que pour gérer 2000 hectares, l'agriculture, c'est important, ça peut être utile. Donc je n'essaie pas de dire que ce n'est pas bien que le secteur agricole ou forestier se fasse porteur de propositions. Ce qui pose problème, c'est que ce soit fait dans un langage où on ne voit pas que c'est ce secteur qui fait des propositions, où il y a un impensé, une inconscience totale du caractère sectoriel de la démarche dans la manière dont elle se présente. Alors j'ai essayé de résumer cette histoire avec quelques petits schémas, donc je vous laisse supputer les connotations inconscientes des schémas. Toujours est-il que je prends la forêt de Belledonne et je traduis les recommandations qui ont été faites par l'étude. Donc, on a un axe sectoriel, c'est l'interprofession forêt-bois qui porte la démarche et qui sera le pivot en attente de l'institution. De même que dans le Haut-Béarn sur les ours, vous vous rappelez de la séance RES 7, c'était l'IPHB avec le syndicalisme agricole. Vous avez vu qu'on insiste dans les recommandations sur le fait qu'il faut assurer une représentation légitime des élus des collectivités. Donc le but, c'est d'obtenir un coiffage de la démarche sectorielle, une reprise, un relais par les élus qui représentent eux tout le monde. Et dans le plateau de Saclay, il y a exactement le même raisonnement. Et vous avez vu, troisième élément, qu'on va aussi demander aux autres acteurs d'être représentés. Donc eux, on va leur proposer également de rejoindre le dispositif de manière plus périphérique. Donc l'architecture, c'est celle-là. Vous vous rappelez que dans le rapport sur les barrages, vous voyez la fécondité potentielle de la démarche. Donc dans le rapport sur les barrages, j'ai essayé de montrer, de proposer un schéma conceptuel dans lequel on a ici la dimension verticale avec le citoyen en bas et le président en haut, ou l'élu qui représente tout le monde en haut, et dans laquelle on a les différents secteurs qui chacun a son angle de vue par rapport à l'intérêt collectif. Si on essaye de représenter ça dans cette convention de représentation-là, alors on s'aperçoit que ça constitue une alliance entre un secteur fort, comme le secteur agricole ou forestier ici, et la représentation collective. Les deux travaillent ensemble et associent à leur démarche d'autres secteurs ou d'autres groupes sociaux qui ont des préoccupations. C'est complètement cohérent avec ce qu'on constate dans l'IPHB, mais aussi avec ce qu'on constate beaucoup plus largement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une, selon le point de vue dont on se place, une synergie ou une confusion presque totale entre des intérêts sectoriels et les intérêts de représentation du public. Ça renvoie à la séance qu'on a faite sur le complexe français d'administration agricole des idées, quand les seuls organismes qui font des recherches sur agriculture et environnement sont des organismes à conseil d'administration 100% agricole comme l'INRA. on est bien dans ce contexte quand les seuls fonctionnaires qui exercent dans le champ ressources, nature, environnement, agriculture sont des fonctionnaires essentiellement du ministère de l'Agriculture. On est bien dans un cadre où il y a un axe, une alliance structurelle en fait de cette forme-là. Et on en voit bien la logique ici. Hein. C'est le secteur qui rallie à lui la représentation nationale ou régionale ou départementale pour ensuite assimiler les préoccupations des autres groupes sociaux. Et alors j'ai tenté une troisième représentation qui est celle, au fond, que nous propose l'audit patrimonial. On a une vision globale qui revient à regarder ça, mais vu d'en haut, ou ici, vu d'en haut. Et donc ce qu'on voit, c'est un intérêt collectif. On voit en trame dessous l'intérêt sectoriel qui l'imprègne complètement. Et puis, on voit que la seule question qui reste, c'est aux groupes marginaux, mais est-ce que vous êtes avec la collectivité, ou est-ce que vous êtes dans le collectif, ou est-ce que vous êtes des marginaux ou des extrémistes contre tous? Ce schéma, c'est, sous une autre forme, le schéma de l'entonnoir, dont j'ai démontré l'importance lors de la séance RES 0, en janvier 2004, où j'ai montré que l'obsession de la création d'un consensus en mettant les gens autour de la table revenait à mettre les gens qui avaient des revendications autres que celles de l'alliance dominante dans une situation de devoir choisir entre être exclus et être inclus mais périphérique dans le système. Donc, on voit dans les études de cas cet impensé sectoriel structurant de la démarche. Et une fois qu'on a vu ces différents aspects, on voit qu'on peut décrypter tout ça. Et je vous rappelle qu'il faut voir tout ça avec confiance et convivialité et ne pas hésiter à laisser la limite nous englober. C'est quand même trop dommage d'être exclu complètement. Alors, autre élément de l'impensé sectoriel, je pense que quand on lit sur des théories, c'est aussi très important de voir où va l'affection des auteurs. Avec qui les auteurs d'une théorie partagent-ils les inquiétudes, les souffrances, les peines, et quels sont ceux dans la société dont les souffrances, les inquiétudes laissent l'auteur froid ou même le font carrément rigoler ou l'indigne. Là, il est absolument clair que ce sont les gestionnaires du vivant qui sont présentés comme les victimes. Alors, peut-être qu'il faut préciser ce que c'est que les gestionnaires du vivant. Hein, dans l'approche de Lannion, je vous rappelle que son laboratoire s'appelle « Gestion du vivant et stratégie patrimoniale ». Alors, je vous lis page 606 à 608, on découvre le problème des gestionnaires du vivant dans la thèse. Je cite « En conséquence, les entretiens effectués dans les différentes études de cas ont révélé que les éleveurs, les agriculteurs céréaliers et les forestiers traverse une période de crise profonde qui affecte l'ensemble des dimensions d'identité. Et selon Brédif, ces acteurs souffrent de la distance qui se creuse entre eux et la plupart de leurs concitoyens. Ils vivent assez mal les mises en cause croissantes dont ils sont l'objet. Je continue à citer « La lassitude exprimée par ces producteurs et gestionnaires traditionnels du vivant devra s'accuser à mesure que la grande ville se rapproche ». Donc là, on a vraiment exprimé dans des termes très sentis l'idée que les victimes, les petits, les faibles là-dedans, c'est les céréaliers, les irrigants, les forestiers, les viticulteurs champenois. Donc ceux-là sont des victimes menacées par l'extension de quelque chose qu'il appelle la ville. C'est-à-dire que vous voyez que l'équation « reste de la société » égale « ville » est aussi respectée là-dedans. Donc, on voit bien qu'il y a un attachement sectoriel qui, encore une fois, en lui-même ne pose pas problème. Moi, ça ne me dérange pas que Brédif se sente proche des agriculteurs ou des éleveurs. C'est simplement le fait qu'à aucun moment, ces positions n'en tiennent compte. Ils se présentent toujours comme le porte-parole des intérêts de tous. Au fond, moi, je trouve que la lassitude dont ils parlent, ce qui décrit, vu par moi, c'est simplement le fait qu'au fur et à mesure que le rapport de force entre, d'un côté, les filières agricoles et forestières, et de l'autre côté, les restes de la société s'équilibrent, de façon à ce qu'une négociation devienne possible, eh ben, ça suscite des réactions d'angoisse terribles de la part du secteur agricole et forestier qui, jusqu'ici, a géré ça de manière exclusive, avec un véritable monopole à toutes les échelles, locales, départementales, nationales. Et donc, au fur et à mesure que ce monopole se perd, il y a une angoisse qui monte et qui est partagée par Bredif. Et ce qu'on verra, j'anticipe un peu sur la suite, c'est que la doctrine patrimoniale, elle est la théorie qui permet de mettre un discours sur cette angoisse et de contre-attaquer, en fait, par rapport à ça. Donc, premier élément qui est très, très visible dans la thèse quand on veut bien le regarder et qui recoupe avec tous les autres constats dans le cas de l'ours ou dans les écrits sur la thèse de l'agneau, on va retrouver ça partout, c'est cette impensée sectorielle qui est au centre de la démarche. Deuxième aspect de l'entreprise théorique qui mérite d'être discuté, c'est le fait que la théorie est construite d'une manière qui rend impossible à penser les processus dommageables à l'environnement. L'auteur nous explique que, au fond, l'environnementalisme veut nous mettre devant une alternative impossible, puisqu'il veut nous convaincre que l'homme est un agent destructeur. Or, l'auteur nous dit, dans cette alternative-là, soit l'homme est un agent destructeur, soit il ne l'est pas. On ne peut pas admettre que l'homme soit un agent destructeur. Il faut en fait comprendre que l'homme fait partie du système. Et donc, il y a une incohérence à considérer l'homme comme un agent destructeur. Donc, il ne l'est pas. Alors, mon commentaire est noté là, il est évident. C'est le fait qu'il n'envisage pas une seule seconde que certains hommes, ou plus précisément certaines pratiques techniques et économiques, sont destructrices de l'environnement, et certaines autres, non. Donc lui, il installe une fausse alternative, ou bien l'homme en général est destructeur, ou bien l'homme en général n'est pas destructeur. Et sur la base de cette alternative, on est obligé de prendre le choix, il n'est pas destructeur. Alors, je vous lis une citation qui permet de comprendre. L'idée de gestion du vivant, vous avez vu que les gestionnaires du vivant, vous avez vu qui y met en premier sous les gestionnaires du vivant. Donc, le concept de gestion du vivant, je cite, permet de sortir du schéma très prégnant de nos jours de l'homme comme natural killer, perturbateur et destructeur invétéré de la mère nature et de l'environnement, pour déjouer les jeux perfides de la misanthropie rampante sur fond de catastrophes écologiques et imminentes, l'humanisme gagnera sans doute à mobiliser cette voie de l'énergie restauratrice et créatrice. Donc, soit l'homme est un natural killer, l'homme en général, soit il n'est pas un natural killer, et dans ce cas-là, tous les gens qui agissent sur la nature, les draineurs, les coupeurs de forêt, sont des gestionnaires du vivant. Donc, au fond, avec cette alternative et cette catégorisation, il s'agit de rendre impossible, dès le départ, le fait de mettre en évidence, de rendre saillants les comportements humains qui posent problème du point de vue de la protection de l'écosystème. Deuxième opération, il s'agit de rendre impensables les désaccords sur les finalités écologiques. Donc, d'emblée, et ça, il n'y a pas que l'audit patrimonial qui raisonne comme ça, je pense qu'une partie énorme de la littérature actuelle raisonne comme ça, d'emblée, on pose le principe que on peut être tous d'accord sur le problème environnementalement posé, on pourrait même dire que tant qu'on n'est pas tous d'accord, un problème environnemental n'est pas un vrai problème. Et donc que la difficulté ne porte que sur les solutions. Évidemment, de mon point de vue, ça c'est faux. Il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait un accord dans la société sur les problèmes et les objectifs en matière d'environnement, pas plus qu'il y a d'accord dans la société sur les objectifs de développement et les choix techniques. Je connais très peu de domaines où tout le monde dans la société soit d'accord sur la manière dont il convient d'agir et sur les objectifs à rechercher. Pourtant, dans toute la thèse, le problème est posé comme s'il existait une maladie globale. C'est-à-dire l'auteur parle de la crise écologique comme s'il y avait une maladie globale qu'il fallait soigner. Une maladie, c'est une maladie. On n'est pas d'accord ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai une bronchopneumonie, la discussion sur les objectifs a beaucoup moins de place pour se glisser. L'objectif guérir s'impose comme le point polaire. Donc pour lui, la crise écologique, elle demande une guérison, et donc c'est un objectif qui ne peut faire que l'accord de tous. Je pense que ce cadrage-là rend impensable les désaccords sur les objectifs. Alors c'est étonnant, c'est réitéré à de nombreuses fois, et en particulier, on tombe sur un argument classique qui est que la question écologique ne peut pas se réduire à un problème de conservation de la nature, et qu'au fond, on ne peut pas utiliser des catégories comme celle de protection de la nature ou des comportements qui soient isolables du contexte global. Donc, de manière, dans sa théorie, Bredif écrit noir sur blanc, on n'a pas le droit de soulever un problème sans en isoler du caractère global, en disant, moi, c'est ça qui me préoccupe. Non. Si on soulève un problème, il faut soulever tout le problème. Et tout le problème, c'est le problème global de la condition de l'humanité. On n'a pas le droit de soulever des problèmes spécifiques. Et donc, c'est réitéré plusieurs fois, toute approche qui précise un objectif écologique donné souffre en fait d'un vice épistémologique. C'est une faute de pensée. C'est une faute de pensée de poser un problème en disant c'est ce problème qui m'intéresse parce que ça reviendrait à le considérer comme isolé de l'ensemble du système. Alors, troisième élément, la démarche vise à délégitimer radicalement l'acteur d'environnement. Donc vous vous rappelez des acteurs d'environnement, tous ceux qui, dans un dossier donné, portent une action pour tirer la gestion dans un sens plus environnemental. Donc, dans les études de cas, c'est flagrant dans la lecture de la thèse, il y a une description du WWF comme responsable d'une spirale infernale néolibérale. Il y a une défense terrible du label des professionnels contre le label indépendant. Et dans les audits eux-mêmes, c'est là, je pense, qui est le plus intéressant, à aucun moment, des acteurs d'environnement organisés ne sont cités. Pourquoi ? Parce que la démarche d'audit considère, en fait, que chacun est expert. Toute personne rencontrée est considérée comme expert. Donc le fait que ces personnes appartiennent à des mouvements, que la pensée qu'ils expriment puisse être construite, organisée, est perdue de vue. Si vous faites 25 entretiens dans la vallée de l'Arse, vous allez faire un entretien avec la personne de l'agence de l'eau qui suit le dossier de la vallée de l'Arse. Si cette personne a une vision extrêmement cohérente et globale de tous les problèmes de l'eau de la vallée de l'Arse, ça ne ressortira pas dans l'audit. Vous allez découper son discours en tout petits morceaux que vous allez mélanger. Vous allez mélanger son identification du problème avec l'identification du problème des 24 autres. Vous allez mélanger son diagnostic avec les éléments de diagnostic des 24 autres, sa prospective avec celle des 24 autres, et idem pour ses propositions d'action. Et donc, dans la méthode d'audit et dans les bases théoriques qui lui sont proposées, il n'y a aucune place pour des discours construits qui serait une élaboration partielle d'un point de vue sur le problème collectif. Il n'y a pas de place pour un discours spécifique des acteurs environnementaux sur les problèmes d'environnement. On revient à la base en disant « tout le monde est autant expert sur les problèmes d'environnement ». Autrement dit, le droit de chaque acteur d'avoir son propre problème, qui l'intéresse lui et pas les autres, et de porter ce problème jusqu'au bout, est mis en doute dès le départ. Chaque acteur est un porteur partiel du problème collectif. Et donc, tout l'objectif est de traiter et de comprendre le problème collectif. Alors, dans cette délégitimisation radicale de l'acteur d'environnement, ce dont on s'aperçoit, c'est que le discours patrimonial fonctionne comme une machine formidable à noyer le poisson, en fait. D'abord, parce qu'elle nous explique que au début de l'audit, il y a des problèmes apparents. Par exemple, la pollution de l'eau dans l'Arse, c'est un problème apparent d'une certaine manière. Et ensuite, une fois qu'on fait l'audit, on va s'apercevoir que derrière ces problèmes apparents, il y a un vrai problème, le problème effectif. Attendez, je cherche, c'est écrit super petit les citations. Voilà. Progressivement, le problème effectif d'un territoire se dévoile, cependant que les problèmes apparents passent à l'arrière-plan. La raison en est simple et dépourvue de mystère. Les problèmes apparents, par exemple les problèmes écologiques que vous posez au départ, de même que le problème porté initialement par le commanditaire de l'audit, renvoie à des qualités spécifiques du territoire. Elles ne correspondent généralement qu'à une fraction des qualités importantes du territoire. Le seul fait de mettre en lumière les autres qualités, ainsi que les offres et les demandes dont elles sont l'objet, et les enjeux multi-échelles qui les accompagnent, conduit à resituer le problème initial ou apparent dans une dynamique territoriale plus globale, dont ce problème n'apparaîtra jamais que comme une émergence, un symptôme révélateur. Ce constat incite à s'interroger sur nombre de problèmes dont il y a lieu de se demander si la manière selon laquelle ils ont été envisagés permet vraiment de dire qu'ils sont connus. La persistance de certains problèmes, encore une fois, ce sont les problèmes environnementaux qui sont visés, pourrait bien indiquer en effet que la façon dont ils sont posés n'était, et par là même la solution n'était pas la bonne. Donc, on tient un outil qui, quelle que soit la revendication précise ou le problème précis posé, permet de dire, attendez, vous avez premièrement un raisonnement trop étroit, donc vous faites une faute épistémologique. Deuxièmement, un raisonnement trop partial, puisque moi, je suis capable de vous montrer 25 autres problèmes qu'on peut faire émerger sur ce territoire. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas celui que vous essayez de porter. Donc, c'est vraiment une technique de dribble extraordinaire contre toute revendication précise. Les actions de contre-pouvoir, je finis sur la délégitimation de l'acteur d'environnement. Ah ben non, il y en a encore. Les actions de contre-pouvoir et de critique sont considérées négatives par la théorie. En effet, elles freinent la créativité, elles minent la confiance et elles gâchent la convivialité. Donc, elles sont contre-productives par définition, puisque le problème, c'est de recréer la convivialité qui va permettre de se remettre au boulot pour régler le problème. Le autre élément de délégitimation qu'on a déjà rencontré dans la séance RES 4, l'acteur d'environnement est toujours réduit à un texte de loi ou à une administration déshumanisée. Je cite, « Ainsi se mesure mieux l'écart entre la démarche préconisée, donc l'audit patrimonial, et les approches classiques de l'environnement, d'inspiration juridique et administrative, portées à ne considérer que les droits et les devoirs de chacun. » Donc là, je vous rappelle la séance de déshumanisation des acteurs écologiques. Au fond, on a encore une fausse alternative, on en a déjà vu plusieurs qui se rajoutent, qui confond l'opposition dialogique entre acteurs d'environnement et acteurs des secteurs productifs, pour voir comment on va faire pour résoudre les contradictions des exigences écologiques d'un côté et des exigences de production de l'autre, on va dire « Ah ben cette dialogique-là, c'est la même que la dialogique entre d'un côté la dimension juridique administrative et de l'autre la dimension humaine. » Donc là, en plaquant une dialogique sur l'autre, on a encore créé une fausse alternative qui rend impossible de voir les choses sous l'aspect environnemental. Donc au final, on arrive à une déstructuration complète de la problématique environnementale. On ne peut plus penser les impacts, ni le conflit. Les acteurs eux-mêmes disparaissent. Il est tout à fait étonnant dans la thèse de voir que Brédif se dit le premier auteur d'un discours global sur la crise écologique et considère qu'aucun acteur d'environnement ou porteur de discours d'écologie politique n'a jamais raisonné de manière globale. C'est complètement étonnant quand on voit depuis 35 ans que, dès le départ, dès la fin des années 60 et des années 70, la problématique globale a été portée à bout de bras par les acteurs écolos, quoi. Quand on pense au Club de Rome, à tous les... Et donc, les acteurs écolos sont ravalés au rang d'une fraction qui est incapable d'avoir une vision globale des choses dans cette démarche, puisque, on le verra après, l'exclusivité du regard global doit être attribuée à la démarche patrimoniale. Et puis, on continue avec les alternatives bloquantes. Toute la théorie patrimoniale repose sur l'idée qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes d'environnement parce qu'on est bloqué entre soit leur prise en charge publique par l'État, soit leur prise en charge privée. Or, cette idée, elle fait une impasse extraordinaire. Elle supprime d'un trait de plume tous les corps intermédiaires, toutes les associations, le syndicalisme agricole, les chambres d'agriculture, les associations écolo, les associations de consommateurs. Donc, tout ce qui existe entre le public et privé est nié. Et après avoir été nié, l'approche patrimoniale arrive et dit ce qu'il faut, c'est une gestion en commun. C'est-à-dire qu'il faut qu'on oublie toutes les structurations intermédiaires qui sont en fait les porteurs des conflits environnementaux. On redissout tout ça en faisant des audits individuels. Ça, c'est la traduction méthodologique. Et on va faire une gestion commune dans laquelle il n'y a plus qu'un seul corps intermédiaire entre le public ou le collectif et le privé, c'est l'institution patrimoniale qui est le corps d'une communauté. Donc, au lieu d'avoir des corps intermédiaires, il faut les remplacer par une communauté d'acteurs. Je pense que ce point-là est crucial. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une pause, non ? J'ai l'impression que... Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on continue après. Donc, le troisième thème que je voulais aborder dans la critique et de la doctrine patrimoniale vue à travers la thèse de Bredif, c'est bien le fait que c'est l'unité de problème et d'action qui est le postulat central de la théorie. C'est ça le cœur, le moteur de la théorie. L'auteur écrit que derrière la diversité déconcertante des problèmes, il faut trouver ce qu'il appelle le problème des problèmes. Et un peu plus loin, il décrit dans les termes suivants le problème des problèmes. Le problème des problèmes, c'est la capacité des acteurs à trouver ce qui les relie. Alors ce qui est très frappant, c'est qu'on nous dit l'audit doit permettre de trouver dans chaque cas le problème des problèmes, mais en fait, on sait d'avance quel est le problème des problèmes, c'est qu'il faut trouver ce qui les relie. On verra après les conséquences. Alors, autre conclusion clé, dans chaque territoire, c'est-à-dire dans chaque étude de cas, un champ d'accord potentiel est révélé. Il faut bien voir le poids des mots, hein. Il n'est pas dévoilé, construit, il est révélé. Ici, il y a un problème, c'est que on peut faire deux, et au fond, l'auditeur se légitime de ce champ d'accord potentiel. Il arrive sur un terrain, il discute avec les gens, et il révèle un terrain d'accord potentiel. Et le fait d'être l'opérateur de cette révélation lui confère un statut exceptionnel, un statut à part comme intervenant. Et du coup, il va s'installer dans l'unité qu'il est seul à voir pour parler aux acteurs qui, eux, vivent dans la division. Hein ? Donc, vous commencez à voir les connotations et elles vont monter de plus en plus jusqu'à la fin. Là, évidemment, il y a deux objections à faire. La première, c'est que, bien sûr, dans chaque situation, on peut trouver un champ d'accord potentiel. Mais pour trouver un champ d'accord potentiel, on a déjà forcément réhiérarchisé et on a considéré certaines choses comme peu importantes. Or, ce choix de hiérarchisation n'étant pas discuté, évidemment, il y a quelque chose de suspect dans l'opération de révélation. La deuxième, c'est la question de savoir si cet accord potentiel est actionnable. Si vous êtes invité à dîner dans une famille où il y a des conflits, de l'extérieur, vous voyez, vous, des zones d'accord potentiel. Mais le fait de voir ça, est-ce que ça vaut quelque chose ? Vous n'en savez rien, parce que vous ne savez pas s'il est possible d'agir, de rendre effectif ces zones d'accord potentielles. Donc, l'auditeur a révélé une unité qui au moins est latente dans la situation, et donc il va percevoir son action comme d'aider les acteurs à surmonter leur flou, puisque les conflits sont redéfinis comme des flous, et leurs inconsciences, puisque leurs préférences sont redéfinies comme étant une inconscience du cadre plus large. Et l'auditeur va pouvoir aussi fustiger la résistance de tous ceux, et en particulier l'administration, les politiques, etc., qui ne sont pas à la hauteur de l'avènement de l'accord. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quelle situation réelle, les responsables qui sont en position d'agir pratiquement ne peuvent jamais être à la hauteur de ce qui serait virtuellement possible dans la situation. Il va aussi pouvoir fustiger les vues étroites de ceux qui ont des revendications spécifiques, par exemple les environnementalistes, et surtout, il va redonner l'espérance, donc là encore, les mots ont leur poids, il est porteur d'espérance, cet auditeur, et il va pouvoir la redonner aux gestionnaires du vivant, donc les éleveurs, les agriculteurs et forestiers, qui sont les victimes de la fragmentation de la chaîne de gestion. Autrement dit, il y a des gens qui sont victimes de la fragmentation, l'auditeur arrive et révèle l'unité, et il leur rend l'espérance. Vous commencez à voir les connotations religieuses de la thématique, on verra après qu'elles sont très fortes. Je vais vous lire un petit extrait de texte pour qu'on voit bien la tonalité. Ces autres possibles, ces autres paysages stratégiques, ces autres images ou rêves de territoire se construisent petit à petit dans l'esprit de l'auditeur patrimonial. Les interlocuteurs, n'ayant en général jamais eu l'occasion de se confier de la sorte devant quiconque, de dire ce qu'ils seraient disposés à reconsidérer, de suggérer des fonctions et des échanges qui ne se risqueraient pas à formuler en face d'autrui ou en public. À l'issue d'un audit, les marges de manœuvre sont nombreuses et des synergies potentielles qu'ont laissé entrevoir les entretiens s'avèrent très stimulantes pour l'auditeur patrimonial. Elles sont la première récompense d'un travail d'écoute active, exigeant et éprouvant, d'autant qu'il ne sait jamais ce qu'il va trouver, ni s'il peut parvenir à dépasser les divergences apparentes, parce que les divergences ne sont jamais qu'apparentes. Une fois découverte cette nouvelle source d'espérance, qui motive et justifie un audit patrimonial, les positions des responsables, des décideurs, s'avèrent en comparaison souvent fort tristes et désenchantées. À vrai dire, plus l'interlocuteur se situe haut dans la responsabilité, plus il manipule des enjeux stratégiques importants, plus il paraît pris dans des rapports de force tendus, et moins il semble pouvoir accéder aux situations concrètes et aux perspectives qu'elles ouvrent pour de nouveaux espaces de liberté, pour des formes inédites du lien entre les problèmes et les personnes. Donc ça, cet extrait de la thèse montre bien la logique. L'auditeur arrive, il découvre et révèle une unité dont les acteurs ne peuvent pas avoir conscience, et ça disqualifie tous les responsables à tous les niveaux d'organisation partielle dans le système, en montrant qu'ils sont trop étriqués, trop petits, trop rigides, trop ceci ou trop cela. Et donc toute la question, c'est maintenant comment faire passer cette espérance. On peut voir ça d'un autre côté. Pour continuer mon exemple, vous allez dans une famille où il y a des conflits, et ben c'est un jeu psychologique très classique. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme ci, comme ça, vous pourriez, machin, truc, etc. On voit tout de suite les problèmes que ça pose de se mettre dans cette situation, dans cette situation-là d'échange. Là encore, je continue sur des citations. J'essaie d'être précis. Au cœur de nos différentes interventions, cette question de la somme, du tout, là on revient à Platon, vous verrez pourquoi j'ai mis cette question de la somme, du tout, soit en définitive de l'unité, ressurgit dans toute sa plénitude. C'est elle qui, plus que tout, pose un sérieux problème. C'est ça le problème des problèmes, en fait. Dès lors, l'alternative est la suivante. Ou bien, on n'a rien à espérer d'un rapprochement entre les projets, les intérêts, les attentes des différents acteurs. Ou bien, à l'inverse, un espace d'intérêt commun potentiel existe entre les différents secteurs, qu'il importe alors de réussir à mettre à jour, par-delà les différences, encore une fois toujours apparentes, afin de redonner au système d'action des marges de manœuvre et des perspectives de projet. Alors, on verra après les conséquences, c'est très très important. Ça veut dire que l'unité est un problème à part. C'est un problème qui se situe sur un autre plan que les problèmes des acteurs. Et en fait, on est devant une alternative dichotomique. Soit on choisit le camp de l'unité, soit on choisit de ne pas pouvoir construire ensemble. C'est encore une des fausses alternatives devant laquelle on va nous mettre. On approche petit à petit du cœur du problème, de ce saut de l'un au multiple. Alors, cette manière de prendre les choses, elle explique des dérives constatées sur le terrain et elle connecte avec des recherches dans notre groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a trois solutions. À partir du moment où on considère que l'unité, la gestion du tout, du problème des problèmes, constitue un domaine d'intervention à part d'un spécialiste, le coastal manager par exemple, eh bien il y a trois solutions. Soit on tombe dans la sectorisation. Pourquoi? Puisque c'est un problème à part, mais en fait ça va être un problème qui va se rajouter aux autres problèmes. Donc le monsieur qui se déclare comme « moi je suis responsable du développement durable ou de la gestion intégrée, donc du tout », on lui dit « bon ben nous on continue à exister, toi on te donne aussi un bureau, on te donne aussi un crédit », et puis finalement il va devenir le monsieur de la gestion intégrée du développement durable, il va devenir un secteur de plus qu'on rajoute aux autres. Donc là on pourrait mentionner les paradoxes que dénonçait la philosophie antique. Si l'un existe, eh bien il se rajoute à la liste des existants, et puis il devient un existant parmi les autres. Donc on ne peut pas traiter l'un comme quelque chose de concret, d'opérationnalisable, d'actionnable, sans tomber dans un paradoxe. Et on a là exactement le fondement conceptuel des constats de sectorialisation de la gestion intégrée que Raphaël a mis en évidence dans ses travaux. Soit, deuxième alternative, c'est un des acteurs sectoriels divisés qui se saisit du tout pour régner sur les autres, et qui donc établit son règne en disant non seulement je suis l'acteur le plus fort dans la situation de terrain, mais je parle au nom de tous. Donc ça c'est la situation numéro 2, c'est celle que Su Shin Tzu a mis en évidence dans son travail sur les Sundarbans dans le nord-est de l'Inde, où elle a montré que sur un des territoires qu'elle a étudié, c'était l'office des forêts indiens, qui finalement gérait tous les aspects sociaux, agricoles, environnementaux, forestiers, postales. Donc ça c'est la deuxième solution, c'est un des opérateurs sectoriels prend le pouvoir au nom du tout. En URSS c'était la police par exemple. Donc soit, dernière alternative, on débouche sur rien, puisque on a postulé qu'il existait un étant actionnable qui se situait sur un plan différent des autres, mais ce postulat ne peut pas marcher, puisque soit on s'inscrit dans la réalité mais on est avec les autres, soit on s'inscrit ailleurs et il ne se passe rien. Et donc ça explique pourquoi dans les études de cas de la thèse, aucune n'a donné lieu à des réalisations pratiques. Alors l'auteur a quelques explications ad hoc pour ça, mais en fait c'est tout simplement parce que si vous arrivez chez des gens et que vous leur dites « mais vous pourriez être beaucoup plus heureux que vous ne l'êtes, et vous pourriez vivre ensemble avec un potentiel beaucoup plus grand que celui que vous exploitez », mais quelle prise existe pour cette perspective? Comment elle est actionnable? Pour qu'elle soit actionnable, il faut s'incarner d'une certaine manière et devenir un acteur parmi les autres. Il n'y a qu'une solution pour que ce soit actionnable, il faut s'impliquer. Impliquer, ça veut dire devenir un des plis, rentrer dans un des plis de la situation. Ne pas croire qu'on peut l'avoir dans son ensemble. Et donc, la troisième solution, c'est l'impuissance, c'est-à-dire qu'on a des discours globaux, non actionnables, et qui, en fait, génèrent une position de donneur de leçons un peu revanchard, et permettent de faire passer tous les autres pour des gens prosaïques, bornés, etc., tout en étant soi-même impuissant et fier de l'être. Donc, il y a une logique très profonde dans ce travail de recherche de l'unité qui conduit à l'une de ces trois solutions et qui, au fond, nous ramène à nos différents cas de terrain. Donc, le premier, c'est la sectorisation. Le deuxième, c'est l'hégémonie d'un des secteurs au nom du tout. C'est le cas d'IPHB ou de ce coin dans les Sundarbans. Et le troisième, c'est l'impuissance au nom du tout, mais dans un contexte où on culpabilise tous les autres pour ce qu'ils essayent de faire ou pour leurs revendications. Alors, où est l'erreur? L'erreur, on peut la trouver dans cette citation de la thèse. Le problème est émergent. Il émerge d'une dynamique systémique. Et je cite, « Ce problème, en effet, apparaît moins comme un problème en soi que comme la résultante ou l'émergence d'un ensemble de comportements, de pratiques, d'interactions entre acteurs humains et agents non humains. Il est comme la trace, l'ombre portée, ou mieux, le marqueur du fonctionnement global et effectif d'une société locale. » On est au cœur du problème, là. Et que la qualité d'un objet environnemental soit l'émergence d'un système complexe. Il n'y a pas de doute. La qualité de l'eau de la petite rivière de l'Arse, elle est le résultat de tout ce qui se passe au niveau du bassin de l'Arse, de toutes les actions, de tous les acteurs qui ont un impact sur l'eau. Mais ça n'a aucun rapport avec la question du pour qui du problème. C'est pas pour ça que on peut dire que ça disqualifie le fait qu'il s'agisse d'un problème en soi. Personne n'a dit que le problème de la qualité de l'eau est un problème en soi. La question est de savoir pour qui c'est un problème. Donc on peut très bien accepter que la qualité de l'eau, c'est un résultat émergent. C'est pas pour ça que c'est un problème dans l'absolu. Donc il y a encore une fausse alternative. Quelquefois, ça a donné lieu à des discussions, des non-discussions, mais des incompréhensions, où on nous reproche à nous, dans des petits textes, de dire « mais puisque vous posez un problème d'environnement, vous considérez que tel problème d'environnement est un problème en soi ». Ben non, c'est cette assimilation-là qui pose problème. Deuxio, il n'y a pas de raison de considérer a priori que tel problème émergent est second par rapport à la logique globale du système. Je prends un exemple extrême, je prends le génocide rwandais. Le génocide rwandais, il n'y a aucun doute que c'est un effet émergent de toutes sortes de systèmes. Dans le bouquin de Jarrett sur l'effondrement des civilisations, il y a une analyse parmi d'autres possibles, mais il n'y a aucun doute qu'il est le résultat de tout un système politique, écologique, économique, agricole, enfin, de tout ça. C'est pas pour ça que ce problème n'est qu'un nom, qu'une ombre, une trace ou un marqueur. C'est pas parce que un problème émerge d'un fonctionnement systémique qui renvoie à un vrai problème qui serait, lui, au niveau de la globalité systémique. Donc ça, c'est le deuxième dérapage. Troisième dérapage, c'est celui qui consiste à dire qu'il faut analyser le tout du fonctionnement de la société locale. C'est un dérapage parce qu'en fait, ce qu'il faut analyser, c'est uniquement les éléments pertinents pour gérer le phénomène émergent. Il n'y a pas besoin de tout changer. Il y a besoin de regarder ce qu'il faut changer. Donc là, je renvoie au cadrage de l'ASIE qui, sur chacun de ces points, essaie d'éviter ces dérives. Donc tout ça, c'est un ensemble de dérives qui veut nous faire passer du constat d'un fonctionnement systémique à l'idée que puisque le fonctionnement est systémique, alors il faut prendre le problème comme un seul problème, et on verra aussi l'action comme une seule action. Cette dérive est complètement abusive. Deuxième, alors les alternatives abusives, il y en a plein depuis le début, on reviendra à la fin pour les récapituler. Vous voyez qu'elles s'accumulent. On nous met devant une autre alternative tout aussi abusive. On nous explique, qui exprime un peu d'une autre manière ce qu'on vient de voir. Ou bien on est dans une vision linéaire, et dans ce cas-là, on considère le problème comme une simple question soluble par les moyens classiques de la technique du droit et de l'économie. Donc soit on est linéaire, soit il faut accepter l'unicité du problème telle qu'elle est définie par l'approche patrimoniale. C'est très bien expliqué dans la thèse, avec le passage suivant par exemple. Soit il faut adopter le patrimonial avec, je cite, la démarche précise, stratégique précise dont il est question, se donne pour objet de concevoir et de mettre en œuvre un processus susceptible de favoriser l'application et l'engagement conjoint des acteurs en faveur d'un but commun. Donc, si on est systémique, alors on doit considérer que tous les acteurs ensemble doivent traiter tous les problèmes pris ensemble. C'est ce point conceptuel qui est, à mon avis, une mauvaise interprétation du systémisme qui est au cœur du dérapage de la démarche. Puisque on voit bien avec l'approche ASIE, j'y reviendrai à d'autres occasions, qu'au fond, eux, ils appellent stratégique. Ce qu'ils appellent stratégique, c'est le fait de se ramener à l'unité du problème, du système entier considéré comme problème. Alors qu'au contraire, nous, ce qu'on appelle stratégique, c'est le fait de prendre en compte les fonctionnements systémiques pour traiter tel ou tel problème de manière stratégique, en effet. On continue sur le même registre. L'alternative est la suivante. Où il s'agit, malgré tout, de percer... Alors ça, c'est encore une autre fausse alternative entre les responsabilités et l'action. ou bien il s'agit malgré tout de persévérer dans la recherche d'une origine fondamentale, ou bien il s'agit de troquer la question du pourquoi, c'est-à-dire à quoi est réellement dû le problème, quel en est ou quelles en sont les origines, contre celle peut-être moins exaltante sur le plan intellectuel, mais sans doute plus décisive sur le plan de l'action, du comment. Comment, malgré tout, assurer une meilleure gestion de la qualité de l'eau. Donc, l'idée est la suivante. Elle consiste à dire que tant qu'on s'intéresse à la question qui est responsable de la dégradation de la qualité de l'eau, on va être dans des raisonnements linéaires. On ne va pas comprendre que ce qui est responsable, c'est un système en entier. Et donc, il faut arrêter de se demander qui est responsable et remplacer la question « pourquoi l'eau se dégrade ?» par la question « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors, il s'appuie là-dessus sur une citation d'un texte de l'école de Palo Alto qui attaque la psychanalyse en disant « c'est pas la peine de revenir jusqu'à notre enfance pour voir ce qui n'a pas marché et améliorer nos relations avec les autres. Ce qu'il faut, c'est regarder comment fonctionnent les relations aujourd'hui et intervenir sur le système de relations. » Soit. Le problème, c'est que il n'y a pas de réponse à la question « comment » qui ne soit pas en même temps des réponses à la question « pourquoi ». Donc, quand on ne veut pas se poser la question du « pourquoi », c'est qu'en fait, il y a une réponse implicite qui est déjà connue, on l'a vu, c'est le problème des problèmes. C'est le pourquoi, c'est qu'on est tous responsables ensemble et que personne n'est plus responsable que les autres, c'est le système qui est responsable. Du moins, c'est ça que ça veut essayer de nous faire penser. L'autre deuxième point, il n'y a absolument aucune raison de penser que la recherche des causes devrait nous conduire à une origine unique, par opposition à une origine globale. Elle peut très bien nous conduire, comme dans le diagnostic de la gestion effective en ASGE, à la mise en évidence de plusieurs causes articulées entre elles. Alors, pourquoi on arrive à cette... on élude le pourquoi ? Eh bien, au fond, on tient là la base théorique du phénomène d'amnistie-amnésie que Maya a démontré dans sa thèse au sujet du fleuve Sénégal. On a ici les bases. Quels que soient les dégâts environnementaux causés par quelque acteur de filière que ce soit, on dispose là d'une base théorique qui permet de dire il n'est pas fondé de discuter de ça. La seule vraie question, c'est comment on fait pour avoir de l'eau de qualité, des milieux naturels de qualité, etc. Donc, on est en présence d'une vraie théorisation de l'amnésie, qui est de l'amnistie et de l'amnésie, des pollueurs et de l'amnésie, de leur responsabilité passée. Je vais vous donner un petit texte qui donne une ambiance et on voit comment ça sert aussi à noyer le poisson. Il s'agit du dossier de l'Ars, hein, de la petite rivière polluée par la viticulture. Le problème, on va retrouver le côté apparent des problèmes et tout. Le problème apparent de l'augmentation tendancielle de la teneur en substances phytosanitaires cède ainsi la place à un problème effectif, donc le vrai problème, à savoir une insuffisance patente de concernement, de responsabilisation et de prise en charge de la qualité de l'eau par les habitants de la vallée. Sans chercher à savoir pourquoi ce problème effectif est devenu ce qu'il est aujourd'hui, la reconnaissance de ce problème effectif suggère un nouveau point de départ et de nouveaux leviers de changement possibles. Donc vous voyez à l'œuvre, 1. Amnistie, amnésie. 2. On efface d'un trait de plume toute la construction du problème par l'agence de l'eau, les filières environnementales qui ont bien montré où était l'origine du problème, tous les chercheurs qui ont déjà travaillé là-dessus et qui montrent l'origine du problème. Et donc on repart à zéro en disant « mais il y a un vrai problème qui est le problème des problèmes, c'est le concernement, l'implication et finalement la convivialité et la confiance qui est le problème le plus grave. » Alors pourquoi on pourrait se dire, mais là, la démarche va exploser en vol. Comment c'est possible de dire on va s'intéresser au comment sans s'intéresser au pourquoi ? La citation donne la réponse, c'est parce qu'en fait, le pourquoi, on connaît déjà toujours la réponse au départ. C'est ce que je vous avais montré sur une diapo antérieure. On connaît la réponse, c'est tout simplement parce que le seul problème, c'est de trouver ce qui relie les acteurs. Le pourquoi, c'est toujours parce qu'il n'y a pas assez de lien entre les acteurs et pas assez d'implication des acteurs. Donc, c'est pas la peine de se demander qui pollue, pourquoi ça pollue, quelles sont les substances, quelles sont les techniques, etc. Le problème profond, le problème réel, dans cette optique, c'est toujours un problème d'implication. Alors, c'est quand même formidable parce que on aboutit à une dépossession hallucinante de toute la construction des problèmes qui a été faite sur les problèmes d'environnement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans selon les endroits, pour être remplacée par cette notion floue d'un manque d'investissement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, au bout du compte, on débouche sur la légitimation théorique de l'absence de diagnostic du système de gestion effective. Voilà ce que l'auteur écrit dans le cas de la Charente. Donc c'est une zone humide inondable, et puis il va faire 75 ou 100 entretiens avec des gens de la vallée de la Charente pour voir qu'est-ce qui fait que la zone humide pose problème. Chaque acteur, je cite, évoque un ensemble d'actions qu'il décrit abondamment. Donc vous imaginez l'auditeur patrimonial. Il arrive, il n'a pas lu la documentation ou il n'en fait pas état dans son audit, il écoute ce que les gens ont à dire. Chaque acteur évoque un ensemble d'actions qu'il décrit abondamment. La liste des interventions s'allonge, les recoupements étant rarement possibles. Au terme de 40 entretiens, le doute règne dans l'esprit de l'auditeur. Est-il même possible de rendre compte de l'action globale effectuée au profit de la plaine inondable ? Et la suite de l'étude de cas répond clairement à la question, c'est non. Donc, on arrive dans une situation où on légitime le fait de dire « c'est pas la peine d'essayer de construire une image cohérente de la gestion effective et de la gestion intentionnelle, comme on les appellerait nous. D'abord, c'est trop compliqué. Et puis, c'est pas vraiment légitime, puisqu'en fait, les acteurs vivent dans une dispersion qui rend la chose non pensable. En fait, ce qu'il faut, c'est construire l'unité à côté, le point d'unité qui aura été révélé. Et à partir de là, on pourra reprendre tous ces éléments qu'on ne peut pas considérer comme structurés au départ pour faire émerger une véritable gestion. Bon, inutile de dire là qu'il y a un point d'opposition énorme, mais surtout que ça rend la démarche, on comprend pourquoi il y a de l'autisme. Tout le problème des chercheurs, c'est bien de comprendre comment les systèmes fonctionnent, comment la gestion fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça ne viendrait à l'idée de personne d'écrire que finalement c'est complètement compliqué. On ne peut pas rendre compte de la gestion globale. On part sur une autre voie qui consiste à dire moi je vais d'abord révéler l'unité et à partir de là tous ces... C'est pas la peine de penser qu'il y a des structurations avant. Je vais remettre de la structuration à partir de l'unité. Alors, on tient ici évidemment la cause. On retrouve en plus profond la cause de la non-actionnabilité des conclusions de l'audit. C'est évident que si on construit l'audit patrimonial d'une manière qui ne permet pas de le relier sans discontinuité avec une compréhension du système et une reconnaissance du système de gestion tel qu'il fonctionne, eh bien, il est suspendu dans le vide, d'une certaine manière, ce diagnostic unitaire. Et puis, on comprend aussi la capacité à éclater les revendications environnementales, la gestion intentionnelle. Par définition, elle est insuffisante, puisque tout est éclaté. Et puis, on tient aussi la capacité du discours à effacer les traces des processus dommageables. C'est l'amnistie amnésie. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est à recouper avec l'impensée sectorielle qu'on a vue tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que le secteur porteur de l'audit, lui, est épargné? C'est tout simplement le fait que lui est actif dans la construction du discours d'audit, puisqu'il se transforme de porteur de... Comment dire il est transfiguré par la démarche d'audit. Avant, il était un acteur parmi les autres. Maintenant, il est l'acteur qui porte le projet unitaire. Et en tant que tel, eh bien, ses logiques restent inscrites. Il est le seul à ne pas passer à la moulinette de la critique. De manière implicite, ce secteur porteur est inséré dans la logique globale. Je vous rappelle le petit dessin marron et noir que j'avais fait. L'acteur porteur, puisqu'il n'est pas distinguable de l'auditeur qui porte le discours unitaire, eh bien lui, ses logiques restent implicitement sauves dans cette grande purge. Ses logiques à lui restent implicitement sauves. Donc, on peut redéfinir le métier de l'auditeur. Le métier de l'auditeur, c'est d'aider un acteur sectoriel à se présenter comme étant lui le porte-parole de l'unité, et à renvoyer tous les autres à un monde non structuré qui s'est fourvoyé, en fait, dans la tentative de soulever les problèmes, de les identifier et de les traiter. Donc, ça, c'était le troisième point de ma critique. C'était le fait qu'on prend l'unité de problème comme postulat et on voit qu'on tient là la racine des difficultés. Et je vais aborder le quatrième et dernier problème de critique de la thèse de Brédif et de la doctrine patrimoniale, qui est celui du rôle de l'analyste, de l'auditeur patrimonial. Alors, si on résume la thèse, en fait, d'un certain point de vue, elle nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il faut une gestion globale, s'appuyant sur une négociation entre acteurs, dégageant des marges de manœuvre par des jeux à somme positive, et qui s'appuie sur le territoire comme support d'intégration. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je veux dire, c'est le discours dominant, ça ne dit rien. Qu'est-ce qui fait la revendication d'ambition et d'originalité ? Eh bien, c'est tout simplement et la fascination aussi que cette démarche exerce sur des personnes, par exemple celles dans le jury qui ont validé la démarche, ou celles qui, à l'INAPG, soutiennent la démarche de l'audit patrimonial. Eh bien, en fait, c'est l'originalité de la posture de l'auditeur patrimonial. Dit autrement, la convivialité et la confiance d'un côté, puis la sécurisation de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sécurisation ? C'est par là qu'on va rentrer dans la posture de l'analyste. Je cite, « La première garantie découle de l'établissement d'un contrat avec le commanditaire, ce dernier devant être légitime au regard du problème posé et convaincu d'avoir affaire à un problème suffisamment complexe pour ne pas trouver de réponse satisfaisante dans les modes d'intervention classiques. La seconde source de sécurité réside dans les méthodes mises en œuvre, qui sont transparentes, opposables, encadrées par des clauses méthodologiques et déontologiques strictes. » Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit plusieurs choses. La première, c'est que le commanditaire est considéré dès le départ comme légitime. Alors, c'est assez particulier, parce qu'on n'a pas encore fait le diagnostic du problème, ni du système social, ni du système écologique, mais on sait déjà au départ que le commanditaire est légitime. Ça, c'est un premier problème, mais qui s'explique mieux une fois qu'on a vu avant l'impensé sectoriel. Le deuxième, c'est cette notion de convaincu que c'est trop complexe pour les réponses classiques. Dit autrement, on est un peu dans la situation de la médecine alternative quand elle essaye de dire « ben voilà, vous êtes foutus avec la médecine classique, donc maintenant il faut nous essayer, nous ». C'est-à-dire que la résolution du problème va d'emblée être posée comme se situant sur un plan complètement autre que les remises en cause et les problèmes et les blocages du moment. Donc ça, c'est un point très important dans la posture. Il se présente presque comme un magicien, cet auditeur. Il vous dit « les solutions normales ne marchent plus et moi, je suis porteur d'une solution exceptionnelle, d'une solution qui échappe aux contraintes dans lesquelles sont englués les autres types d'analystes. » Et puis, troisièmement, vous êtes dans la sécurité parce que moi j'ai un discours clair alors que les autres ont un discours confus. Alors voyons ce que sont ces clauses déontologiques qui instaurent la transparence. Elles sont aux règles de 5, il y a un petit encadré dans la thèse, 1, 2, 3, 4, 5. Et elles sont applicables à tous les auditeurs patrimoniaux, ça fait partie de la méthode normalisée. 1. L'auditeur informe la personne rencontrée du nom du commanditaire. 2. L'auditeur garantit la stricte confidentialité. 3. L'expertise recueillie n'engage ni l'auditeur ni le commanditaire dans une obligation d'agir. 4. Le rapport de synthèse engage la responsabilité personnelle de l'auditeur. 5. La diffusion des rapports est gérée par le seul commanditaire. Personnellement, j'ai un petit doute sur le caractère transparent de telle clause. Pour moi, la confidentialité garantit une dépossession de la réflexion des acteurs. Par exemple, dans le cas de l'audit sur une zone humide, l'association de protection de la nature qui travaille depuis 20 ans sur cette zone humide, qui a fait travailler plein de chercheurs, qui a construit des diagnostics, etc., tout ça va être anonymisé complètement et l'audit ne prévoit aucune référence bibliographique. Ça n'existe pas, on ne fait que la synthèse des entretiens normalement. Donc, là, il y a une forme de dépossession. Le fait que ça n'engage pas dans une obligation d'agir, finalement, c'est une garantie d'inaction. Non pas que dans d'autres formes d'études, il y a une garantie d'action, mais quand on fait une évaluation des politiques publiques ou un diagnostic, dans beaucoup de cas, on assume le fait que ça crée une pression pour agir. Parce que en mettant en évidence les causes des problèmes, on crée une pression. Et alors que là, la clause déontologique dit en aucun cas, ça n'est susceptible de créer une pression pour agir. Ensuite, le rapport engage l'auteur, certes, mais on verra après, à cause des méthodes d'audit, qui n'engagent personne d'autre que l'auteur. Et enfin, le rapport n'est pas public. Dit autrement, on a affaire à des problèmes publics, la pollution de l'eau de la rivière, la zone humide, l'aménagement de Saclay, mais les gens ont parlé et c'est le commanditaire qui fera ce qu'il veut avec le rapport. Donc, on est dans une instruction non publique du problème. Alors, pourquoi le rapport n'engage que l'auditeur? Page 755, Brédif décrit la méthode de synthèse de l'audit patrimonial. Une alchimie, vous voyez qu'on est dans la continuité des connotations, s'opère, je cite, hein, « dont il n'est pas aisé de rendre compte. Ici, l'art rejoint, ou plutôt prolonge, la science. » Vous remarquez aussi que mes observations au début sur les qualités de plume de l'auteur étaient fondées. Je vais vous prendre la définition de la même opération par Henriot Lagnon dans sa thèse. Alors, tenez-vous bien, c'est écrit moins élégamment, mais c'est encore plus clair. L'auditeur patrimonial doit révéler chez chaque acteur et au niveau du complexe multi-acteurs le cœur stratégique du problème ou du projet. L'audit patrimonial va solliciter chaque acteur en tant que micro et macro-expert. Traduit en français, c'est « va faire des entretiens ». Et voilà comment fonctionne la synthèse, je cite, « L'auditeur et l'équipe d'audit doivent ensuite faire surgir de l'ensemble des expertises une expertise d'ensemble, à la fois fidèle et constructive, qui soit acceptable par tous les acteurs. » Au secours, Platon. Donc, ce que vous voyez là, c'est que la théorie revendique le fait de ne pas mettre de clauses, de contraintes, de concepts, de méthodes sur le chemin qui conduit de la multiplicité des entretiens à l'unité du diagnostic. C'est une alchimie, c'est un faire surgir. Et on passe par cette opération extraordinaire, donc de l'ensemble des expertises disjointes, éclatées, multiples, à une expertise d'ensemble. On a fabriqué de l'unité, ou plus exactement, on l'a fait surgir, puisqu'on ne doit pas pouvoir dire comment on l'a fabriqué. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'étape ou d'opération, on ne doit pas pouvoir les définir. Justement, toute la clé, elle est dans ce faire surgir, dans cette alchimie qui crée de l'unité. Donc ce point est tout à fait crucial. Il explique aussi pourquoi la discussion publique ou académique des rapports est impossible, puisque on légitime au départ que c'est en ne se donnant pas d'étape de synthèse qu'on va pouvoir faire surgir l'unité de compréhension dans la tête de l'auditeur patrimonial et ensuite la partager avec les autres. Alors, certes, c'est d'une certaine manière un nouveau personnage qui apparaît là. Et je vous cite un certain nombre des éléments de profil, donc je passe à un autre thème, des éléments de profil de l'auditeur patrimonial décrit par Brédif. Son rôle va au-delà de celui du sociologue ou du prospectiviste. Rougissez, messieurs. Il est dévoué au service du bien commun. Il aide les acteurs à coproduire leur vraie maison. Il aime le monde et la vie. Il témoigne d'une bienveillance égale pour tous. Il dédie sa vie à l'édification d'un monde plus radieux et joyeux. Donc, son intuition, j'essaie d'adopter le ton de la chair. Son chair avec un E, hein, surtout. Son intuition lui est d'un grand secours dans sa quête d'unité, libre ou libéré de toute appartenance marquée. Sans pouvoir et sans capacité d'action directe, il sait que son intervention sera d'autant plus pertinente qu'il pratiquera sans réserve le dénuement de puissance et que sa présence diaphane ne se remarquera pas. Pour exister et se démultiplier, il a besoin que des institutions et des responsables instaurent des conditions propices à l'exercice d'une fonction vouée au service du bien commun. Alors, Donc tout ça, c'est des citations littérales de la thèse dans ces derniers passages qui synthétisent la démarche. L'image qui surgit, vous l'avez entendu dans le ton de la voix, c'est évidemment celle d'un ordre religieux au service du pouvoir. Donc je ne suis pas assez versé l'histoire des ordres pour dire lequel c'est, mais on est exactement dans le vœu d'humilité, enfin ou le vœu de pauvreté, et la mise au service de l'exécutif dans une situation tout à fait étonnante. On est dans la posture de l'ordre prêcheur qui, d'un côté, stigmatise les responsables parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'unité et qui, de l'autre côté, leur explique que si ces hommes de pouvoir acceptaient de soutenir cet ordre prêcheur qui est dans un vœu de pauvreté, alors peut-être qu'il pourrait passer par une rédemption et enfin permettre à la communauté d'accéder à cette virtualité unitaire qui a été révélée par l'auditeur patrimonial. Je vous cite, « Son intervention implique l'émergence de responsables politiques d'un genre nouveau, convaincus que leur rôle consiste plus à faire émerger des projets complexes qu'à gérer par eux-mêmes les problèmes de la collectivité. » Donc, on est dans la position, au fond, de toutes les des religions conquérantes qui s'adressent aux politiques en disent « Vous êtes des pêcheurs, vous êtes complètement dispersés, jusque-là, vous n'êtes arrivés à rien, mais à travers nous, vous pouvez passer par la révélation de l'unité et vous serez une nouvelle sorte de politique, une nouvelle race de politique, d'une certaine manière. » C'est... Bon, alors, donc, un portrait synthétique de l'auditeur. Il est le seul à pouvoir parler du méta-niveau systémique. Ça, c'est un point crucial. L'auditeur patrimonial, si on se place du point de vue RES, il est, contrairement aux autres, lui, il n'est pas dans le système. Il est le seul à avoir qui prétend avoir la capacité de transcender complètement le système pour se faire le porte-parole de l'unité. 2. Il n'a pas à rendre compte de l'alchimie de ses compositions, puisque justement c'est ce non-compte-rendu qui lui permet d'échapper à la force de gravité sociale à laquelle les autres sont soumises. 3. Il est libre. Et cette liberté, on en a vu les composantes, il est libre parce qu'aucune tension ne peut le séparer du commanditaire, ni de l'intérêt sectoriel, ni de l'homme de pouvoir, ni de l'intérêt commun, puisque tout ça c'est la même chose. Et que tout au long de la théorisation, on nous montre que la liberté, elle se construit par le fait de montrer que toutes les tensions entre ces différents rôles ne sont qu'apparentes. Et c'est le jour où on arrive à être complètement d'accord avec l'homme de pouvoir, avec l'acteur sectoriel et avec la totalité de la société, qu'on est enfin complètement libre et qu'on va pouvoir aider la société à transcender ses limites. Dans le vocabulaire de Reiss, il est clair qu'il se réclame de trois postures de soulagement. 1. Celle qui fait qu'on se réclame de l'accord et donc on peut se considérer comme neutre. Il écoute tout le monde et il fait une synthèse dans laquelle tout le monde va retrouver son bonheur, sinon c'est petit. 2. Il est le bras neutre du commanditaire et il peut dire « Écoutez, c'est le commanditaire qui est légitime. Moi, j'ai fait vœu de dénuement de pouvoir ». Et donc, je suis neutre. Et puis, il est aussi la troisième posture de soulagement qui consiste à dire à tous les autres, tout ce que vous dites, c'est bien gentil, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au nom du système complexe et de l'unité, je peux vous dire que votre point de vue est un point de vue trop partiel. C'est un point de vue déchu, en fait. Un point de vue de pêcheur. Alors, pour moi, il est clair... globalement, la position n'est pas acceptable. Mais c'est intéressant de voir comment elle est construite. Mais pour des problèmes publics et dans un contexte académique, elle est inacceptable. L'idée que l'opération de synthèse n'ait pas de compte à rendre est tout simplement rédhibitoire, aussi bien dans le cadre d'une discussion publique démocratique sur des problèmes publics que dans une discussion académique. Personne n'est fondé à vous dire « moi, j'ai fait surgir une vue d'ensemble de l'ensemble des vues ». Il faut qu'ils vous disent comment, pourquoi, par quelle méthode, et qu'on discute de cette émergence. Mais je pense qu'il est, globalement, mon but, là, c'est de porter une analyse aussi précise que possible, parce que ce discours est très dur à analyser, comme on pourra le voir en conclusion. Au fond, c'est cool d'être auditeur patrimonial. J'ai une grille de lecture super simple, IDPA, un apprentissage pas très long, puisqu'il suffit de faire un an de SP à l'agro pour faire ça. J'ai une compétence que personne d'autre n'a. Et puis ensuite, j'ai un travail qui est fascinant, parce que c'est génial d'aller faire des entretiens auprès des gens. Tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait des entretiens savent que c'est vachement excitant. J'ai pas besoin de rendre compte sur les observations que je fais. J'ai pas besoin de compulser une abondante bibliographie, puisqu'en fait, mon but n'est pas de m'engluer dans les analyses précédentes trop partielles, mais de faire surgir l'unité à partir des entretiens auprès des acteurs. J'ai pas besoin d'argumenter mes analyses devant des collègues critiques. J'ai pas besoin de me creuser la tête sur la méthodo parce qu'elle est sécurisée, donc je suis sur un rail méthodologique, et j'ai pas d'obligation de résultat dans l'action, puisque si ça marche pas, c'est qu'il y a des gens qui sont trop accrochés à leur petite responsabilité partielle. Alors ce qui est vraiment paradoxal pour conclure sur l'audit patrimonial, c'est que au fond on a un programme très basique, qui est bien adapté par certains aspects. Pour l'initiation des étudiants, c'est parfait. Pour des élèves ingénieurs qui n'ont jamais fait d'entretien, qui n'ont jamais réfléchi à la multiplicité des points de vue et aux effets systémiques dans les problèmes de ressources, c'est une très bonne initiation. Un ingénieur qui fait en silo ou qui fait une ingénierie de projet, INIP, un mois de TD à l'agro en audit patrimonial, c'est très bien adapté. Donc ce côté basique est très bien adapté. Dans les années 70, c'était très innovant. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que l'étude qualitative, même sans méthode, c'est quelque chose qui marche. Sur n'importe quel problème, si vous allez discuter avec tout le monde et que vous essayez de voir la vue d'ensemble qui s'en dégage, ça marche. Je veux dire, c'est une approche naturelle. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un cœur qui est basique, qui est au fond le moteur à eau. Enfin, tout le monde peut le faire. Aller discuter avec les gens pour voir les points de vue et essayer de comprendre ce qui se passe, tout le monde peut le faire. Comment est-il possible que, sur cette base élémentaire, se soit construit une doctrine qui ait de telles revendications et qui ait un discours aussi offensif? C'est ça qui est quand même tout à fait extraordinaire. Donc, il y a la griserie de l'écoute. Alors, vous vous rappelez que dans la citation de Platon, il nous parlait des jeunes qui découvrent cette jonglerie entre l'un et le multiple et qui peuvent plus s'empêcher d'aller de l'un au multiple. En fait, il y a une forme de griserie dans l'enquête qualitative. Et ce qui est étonnant, c'est que, au fond, l'audit patrimonial, il y a 25 ans, a institué cette griserie et a réussi à l'accompagner d'un discours qui fait penser aux autres que parce qu'ils rentrent moins dans cette griserie, ils sont moins ceci, moins cela, moins scientifiques. Et donc, chaque fois que les porteurs de ce discours arrivent à faire découvrir cette griserie à des gens, bah, soit ces gens découvrent la griserie et s'aperçoivent que c'est simplement celle des entretiens et que c'est génial, soit ils croient que c'est à cause de la doctrine qu'ils ont vécu cette expérience. Et s'ils croient que c'est à cause de la doctrine patrimoniale qu'ils ont pu vivre cette expérience humaine très simple qui consiste à discuter avec les gens et à essayer de se faire une vue d'ensemble, et bien à ce moment-là, ils deviennent des convaincus. Et ils ont, le système étant complètement clos et autarcique, ils sont convaincus que quand on leur dit qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas compris, ils pensent que c'est les autres qui n'ont pas compris, et on rentre dans une mécanique sectaire qui a, vous l'avez vu, une ambition de s'instituer auprès du pouvoir comme vraie méthode pour régler les problèmes de la société. Donc voilà, ça c'était le premier volet sur la gestion patrimoniale de mon exposé. Alors je vous ai dit que c'était très long, on va faire moins long sur la suite, mais j'en ai encore quand même pour un moment. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est là que je vais passer le plus vite, que loin d'être quelque chose de complètement isolé, il y a beaucoup d'éléments de ce syndrome patrimonial, de cette dynamique qu'on vient de décortiquer, qui se transmettent dans d'autres approches et qu'on retrouve dans toutes sortes de théories ou de méthodes auxquelles nous avons affaire. Alors je vais aller assez vite, je vais aller très vite sur l'aperçu des approches néopatrimoniales parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et je vais simplement faire un sondage en vous montrant sur un texte d'Agiri que beaucoup des postulats de l'audit patrimonial sont présents dans des approches de gestion qui pourtant n'ont aucune communication directe avec les doctrines de gestion patrimoniale. Alors, sur la médiation patrimoniale, vous m'excuserez, je vais passer très vite. Le texte le plus intéressant à voir, c'est un texte de 1997 de Babin, Weber, Antonin, donc et Bertrand, le Sirat Green, sur médiation patrimoniale et gestion subsidiaire. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les citations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé dans ce texte tous les passages qui montrent quelles sont les bases de la doctrine des auteurs. Donc, on voit toutes les remises en cause qu'ils proposent. Devant une telle pluralité des intérêts, une médiation semble appropriée. La médiation patrimoniale est constitutive d'une démarche basée sur le contrat. Le contrat interne au groupe, légitimé et ritualisé, en devient le patrimoine. Vous voyez ici qu'on est exactement dans la logique de l'institution patrimoniale. C'est parce que on a institué ensemble nos attachements en se mettant autour de la table que le patrimoine vient à exister comme patrimoine. Le patrimoine existe comme lien, comme attachement, comme identité. Et donc, dans la définition cruciale de leur démarche, aux deux étapes qui sont citées là, Olagnon est cité sur la définition du patrimoine et sur la manière d'instituer le patrimoine. Il importe de construire, alors là il cite Olagnon, de construire et d'actualiser une instance de négociation vulnérable au désengagement, traduisant une communauté d'action fondée sur le désir d'agir ensemble. Au total, et ils proposent aussi une démarche normalisée, sécurisée, même s'ils n'utilisent pas ces mots-là, qui s'appelle la médiation patrimoniale. J'ai mis entre crochets les équivalents dans l'audit patrimonial. I, c'est identification, P, c'est prospective, et A, c'est action. Le point amusant à noter, c'est que Brédif, lui, a encore simplifié par rapport à IDPA. Il a enlevé l'aspect prospectif. Donc pour Brédif, les seules trois questions à poser aux acteurs, c'est identification, diagnostic, action. Et de manière assez amusante, eux sont partis aussi de IDPA, mais ils ont enlevé diagnostic. Et donc ils ont identification, prospective, action, et ils ont reconstruit autour de ça. Bon, mais ça c'est des nuances, le but c'est simplement de montrer que la racine est la même. Pour une discussion plus approfondie des conséquences de cette démarche, je vous renvoie à la thèse de Maya et au papier qu'on a fait ensemble sur les limites du patrimonial, notamment la discussion des applications malgaches de cette doctrine. Alors ce qui est frappant, c'est qu'au bout du compte, on nous propose en 97, dans un colloque international, un texte très proche des textes de 76 de Lagnon sur la gestion patrimoniale, dans les concepts, dans la tonalité, et puis surtout dans la revendication d'une rupture, c'est-à-dire qu'il nous explique que c'est une vraie révolution intellectuelle, que c'est une nouveauté totale, en 97, en anglais, pour un public international. Alors, on est quand même fondé à se poser la question. Pourquoi ces 20 ans d'écart? Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles. La première, c'est... on peut se poser la question, est-ce que le sens est encore le même? C'est pas évident que le sens soit le même. En 1975, quand on dit il faut traiter les problèmes par la négociation plutôt que par l'administration, le sens, c'est vraiment un sens de progrès. C'est-à-dire, on va... injecter plus de négociations dans une procédure qui est très réglementaire et administrative. Lorsque, en 2005, on dit « il faut traiter le problème par la négociation », ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire « il n'est pas question de faire monter un conflit et l'exigence jusqu'au niveau du conflit, il est hors de question de viser plus que ce sur quoi les gens tombent d'accord ». Donc il y a un renversement de sens. La deuxième hypothèse, donc, que je viens de dire, c'est que le sens change de direction, donc ça change de sens. Ce qui était progressiste en 75-80 devient le discours de réaction anti-environnementale aujourd'hui. Là, on a beaucoup parlé avec Maya dans nos textes. L'autre, il y a une deuxième hypothèse ou une autre hypothèse qui serait de se dire en Afrique, tout se passe avec 20 ans de retard et donc ils en seraient aujourd'hui à avoir le même type de remise en question des logiques administratives qu'il y a 20 ans en France. Au fond, mon analyse est la suivante. En fait, ce qui se passe, c'est que ce discours est un discours de reprise en main de la question environnementale par les acteurs des filières productives. Et donc, si le discours patrimonial ressurgit en 1997 dans le contexte de la coopération française en Afrique, dans des termes presque identiques de ceux du ministère de l'Agriculture en 1976, c'est tout simplement parce que c'est le moment où les acteurs de la coopération française, qui est entièrement dominée par l'agriculture dans ces régions-là, décident de dire il y en a marre qu'on nous fasse des pressions au nom de l'environnement, nous allons nous ressaisir du problème, et donc on va reconstruire le discours à partir d'une logique dans laquelle nous sommes au centre du problème, c'est-à-dire nous représentons l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire c'est les forestiers, les acteurs paysans et leur assistance au développement qui sont les porteurs du dossier. Donc mon hypothèse, elle est simple. On a vu avec la critique de la thèse de Brédif l'impensée sectorielle de l'approche patrimoniale, le fait qu'elle exprime une revendication du secteur productif agricole et forestier sur la totalité de la gestion sociale et écologique, eh bien, lorsque, dans le contexte du développement, les acteurs agricoles de la coopération française en Afrique décident qu'il est temps pour eux d'arrêter de laisser des marges de manœuvre aux politiques environnementales en Afrique et de reprendre le dossier à leur compte et de reprendre les affaires en main, eh bien, ils réélaborent et récupère le même discours patrimonial. Alors, là où ça devient... Donc les approches patrimoniales, au fond, elles participent de la même logique. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de regarder dans quelle mesure les approches qui sont diversifiées à partir de Green, en allant vers les SMA, vers des approches outils, etc., continuent à rester porteuses, mais des mêmes messages. Ça, c'est une question. Ce sera un autre programme de recherche. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que la même structuration intellectuelle va se faire chez des gens complètement autres, pour des raisons qui vont être les mêmes raisons. Alors, je m'appuie sur un texte de Franck Agiri, publié dans Gérer et comprendre en juin 2000, et qui s'appelle « Les politiques de l'environnement comme politique de l'innovation ». Alors, je vous ai mis le chapeau de l'article, le résumé de l'article. Donc, j'ai mis en vert les buzzwords, les mots-clés de la doxa qui ressemble à la logique patrimoniale. Incertitude, savoir distribuer, c'est-à-dire éparpiller, coopération dynamique, innovation, contrat révisable, dispositif de pilotage, collé aux exigences d'un processus prospectif. Donc tout ça, vous voyez que ça fait écho aux mots-clés de la démarche néo-patrimoniale, en particulier de Babin, Weber, Antonin. Et puis j'ai mis en rouge tout ce que ça rejette, l'action unilatérale, réglementaire, les politiques sectorielles, les contradictions entre elles. Pour un cours, l'année dernière, je me suis amusé à prendre dans l'article, c'est un article qui se présente comme très programmatique, qui nous dit « avant, on raisonnait comme ci, maintenant, on raisonne comme ça ». Et j'ai repris toutes les affirmations de cette sorte dans l'article pour faire ce tableau. Donc, avant, implicitement, avant les années 90, la fin des années 90, l'environnement, c'était une action autoritaire, répressive, une segmentation administrative des problèmes, des réglementations inefficaces, des problèmes environnementaux définis a priori de manière rigide, une politique hygiéniste, c'est-à-dire l'environnement vu comme une menace des activités humaines, menace qu'il faut corriger. Le dilemme environnement, croissance économique, protection de l'environnement, installé, faussement bien sûr, d'après lui, au centre de la problématique environnementale, et puis des phases étanches qui se succèdent, diagnostic, on vote une politique, on essaie de la faire appliquer. Et donc, l'innovation, dont il se dit porteur, mais qui en fait est le discours qui surgit en masse à la fin des années 90, ben, c'est remplacer l'action autoritaire par l'innovation, remplacer la segmentation par une logique intégrée, inciter à des comportements nouveaux, refuser de poser les problèmes a priori, mais considérer que c'est les acteurs qui co-construisent les problèmes. Au lieu d'avoir des problèmes environnementaux à corriger, on va avoir une politique orientée développement durable, c'est les termes d'Algérie. Abandonner complètement le dilemme croissance, protection de l'environnement pour dire que l'innovation, c'est le développement durable. Donc c'est étonnant de voir que Algérie trouve les mêmes mots que Brédif pour dire qu'il n'y a pas de dilemme, jamais, entre économie et environnement. Et puis donc, il faut un processus interactif et continu. On est quand même frappé par la similitude du discours, aussi bien sur le contenu de ce programme-là. Dans Lannion aussi, il y a des passages incroyables sur le fait qu'une fois qu'on a réinstallé une collaboration conviviale, l'innovation surgit, etc. Et puis d'autre part, cette espèce de avant-après. Autre point clé qui est un point commun avec les approches patrimoniales, l'article explique clairement qu'au fond, le dépollueur, c'est le pollueur. Alors évidemment, il ne le dit pas dans ces mots-là, il le dit de la manière suivante, je cite. « La question n'est plus de définir une réglementation adaptée à un problème clairement identifié et de sanctionner ensuite les contrevenants, que d'amener les pollueurs à inventer collectivement de nouvelles solutions à un problème mal cerné pour lequel les voies d'exploration possibles sont multiples. » Donc le problème mal cerné, ça veut dire que toute la construction du problème par les acteurs d'environnement ne vaut rien. Il faut reprendre le problème à zéro. Et qui doit reprendre le problème à zéro? C'est les pollueurs qui vont inventer collectivement. C'est ça la clé. Or, vous remarquez que c'est la même logique que l'impensée sectorielle que j'ai mis en évidence dans la démarche patrimoniale. La théorie est une théorie de l'auto-institution des pollueurs comme étant les acteurs de la dépollution. En agriculture, il y a deux mots-clés populaires qui disent ça. C'est « on n'a pas attendu les écolos » et « c'est nous les vrais écolos ». Chaque fois qu'on est dans cette phase de transition, on entend ces formules. Et ces formules, c'est tout simplement ça, les formules de la théorisation patrimoniale ou du syndrome patrimonial. Donc évidemment, ça va de soi que pour la SGE, c'est une hérésie, puisque la base de la théorie de la SGE, elle consiste à dire qu'il y a un paradoxe total à instituer le système qui détruit l'environnement comme étant le système qui le sauve, sauf à nous expliquer par quels intermédiaires, par quelle structuration dialectique on passe de l'un à l'autre. Mais là, on retrouve cette institution directe du pollueur comme des pollueurs. Alors ce qui est frappant aussi, c'est que dans les travaux d'Agiri, à aucun moment, ni dans la théorie ni dans les études de cas, aucun rôle n'est jamais reconnu aux acteurs d'environnement, c'est-à-dire à ceux qui essayent de pousser les industriels à dépolluer. Donc, je pense que les convergences vont de soi, les convergences sont majeures, alors qu'on est dans un paysage intellectuel et dans une tonalité qui est tout à fait différente a priori. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve dans cet article la même chose que dans le néo-patrimonial de Babin. C'est à la fin des années 90, au moment où les industriels décident de se saisir eux-mêmes et de reprendre en main le dossier environnemental plutôt que de laisser les acteurs environnementaux faire pression sur eux, que d'un seul coup se refabrique un discours théorique qui est en tout point homologue, ou en presque tous les points homologue du discours patrimonial. Là, on est au cœur du programme de réflexion de Reiss. À un moment donné, des acteurs cherchent une théorie pour faire quelque chose. Ici, se faire quelque chose, c'est déposséder les acteurs d'environnement du dossier, prendre en main le problème, aligner sur l'accord de tous ceux qui sont à l'intérieur du secteur productif plutôt que sur les revendications environnementales de la société. Et on s'aperçoit que pour faire cette opération, eh bien, on retombe sur la même architecture théorique, parce que c'est entre l'architecture théorique et la topologie stratégique de cette intervention, eh bien, c'est la même chose. La théorie est une action dans un contexte et elle retrouve les mêmes concepts et les mêmes cadrages. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il illustre son propos avec des études de cas. Et dans les études de cas, on voit jouer les acteurs d'environnement, mais à aucun moment, leur rôle n'est dit, explicité, la théorie d'une certaine manière, et c'est pareil pour l'audit patrimonial. L'audit patrimonial permet d'écouter tout le monde. On retrouve par bribes les acteurs d'environnement, d'autres aspects de la société. Simplement, ils n'ont plus de place instituée. Leur rôle n'est plus dit. Ils n'ont plus de légitimité, ni théorique, ni pratique. Alors, ce petit pointage que j'ai fait, c'est pas juste ponctuel. Il est important de voir que pour l'équipe de recherche OEAGERI, c'est programmatique. C'est-à-dire que leur programme de recherche, cette fois-ci, on est en 2006, est posé comme ça. On arrête de concevoir l'environnement comme réponse sous-entendue de l'entreprise et du secteur industriel à des pressions externes, sous-entendu des acteurs d'environnement. Donc ça, on considère que c'est à bannir du champ de la gestion. Je vais passer très vite, mais un jour, il faudra qu'on en discute à fond en termes stratégiques pour notre insertion dans la science de gestion. Donc AGERI définit tout ça comme extérieur au champ de la gestion. Et il dit, n'entre dans la théorie des sciences de gestion que la question de l'environnement comme champ d'innovation et d'apprentissage collectif, et donc seul relève de la gestion la question de la construction de l'apprentissage collectif, sous-entendu de l'acteur sectoriel. Alors, ce qui est... et lui le retraduit dans un modèle théorique, et son modèle théorique est suivant. On a des incertitudes partagées. Donc, vous vous rappelez, hein, le problème est mal posé au départ. Il n'y a qu'un seul problème pour tout le monde, et c'est ce problème qu'il s'agit de découvrir. Et on va aller vers une cible environnementale construite en commun par biais d'un pilotage qui est, au fond, sa version à lui de comment on fabrique de l'unité à partir d'une certaine dispersion. Et la dispersion qu'il est prêt à prendre en compte dans son modèle théorique, c'est la dispersion au sein des entreprises, entre celles qui sont pionnières, Lafarge par exemple, et puis celles qui ne veulent pas jouer le jeu. Donc sa théorie, c'est une théorie de l'apprentissage collectif au sein du secteur, et on retrouve la seule diversité ou multiplicité qu'il est prêt à reconnaître, c'est la diversité de réaction au sein de l'acteur sectoriel, entre eux, ceux qui veulent aller vers plus environnemental, moins environnemental, et c'est ça qui fait l'objet de l'apprentissage collectif. Dit autrement, cette théorie, vous rappelez que quand j'ai présenté la théorie de Latour, j'ai dit au fond, cette théorie, qui parle à travers cette théorie, c'est l'acteur assembleur. Dans la topologie des rôles de la SGE, c'est celui qui joue la mise en relation, la régulation entre l'acteur d'environnement et les autres. Et bien ici, on est dans une théorie à travers laquelle seul parle l'acteur sectoriel productif. C'est son langage qui est réinstitué comme langage universel. Les interpellations externes sont redéfinies comme incertitudes. La diversité des points de vue ne couvre que la diversité interne entre les pionniers et les clandestins. Et la progression est définie non pas comme une dialectique conflictuelle, mais comme une exploration suivie d'une rationalisation, parce que ça, c'est le modèle de l'apprentissage. On est des entreprises, on découvre un problème environnemental, on est dans la perplexité. Comment on va faire pour construire ensemble la cible environnementale qui nous convient. Donc au fond, on est dans une très grande cohérence par rapport à la logique des approches patrimoniales, même si le langage est très différent, la modélisation est la même. On a une unité de problème et d'action qui est définie dans cette trajectoire, avec une diversité interne dont l'acteur d'environnement est exclu. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est... Oui, complètement. Et donc l'incertitude, elle porte sur jusqu'où sommes-nous prêts à aller, une fois qu'on aura décidé de ne pas écouter les autres à l'extérieur. C'est ça la question de l'incertitude. Donc ce modèle est tout à fait étonnant. Alors, ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est on a fini sur l'extension de la logique patrimoniale, parce que je suis passé très vite. On retrouverait ça. Maintenant, il nous reste à retrouver sous diverses formes, dans divers types de travaux, à l'œuvre, la même logique, et de montrer pourquoi elle pose problème. Mais Et je voudrais centrer la discussion sur un point précis, c'est pourquoi c'est tellement difficile de discuter avec eux. Ce qui est, il y a une forme de dissymétrie, mais je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, c'est que nous, on reconnaît d'emblée la diversité, qu'il y a plusieurs positions topologiques dans l'espace d'interaction, il y a plusieurs lieux, et donc plusieurs vues qui sont irréductibles l'une à l'autre. Et donc, nous, on reconnaît d'emblée que notre vue est une vue parmi d'autres, et comporte un point de vue parmi d'autres. Le « eux », non. Alors, toute la question, c'est de savoir pourquoi non. Alors, sur un plan idéologique, on peut le comprendre. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse idéologique qui consiste à dire que leur théorie n'a pas d'autre fonction que d'empêcher de prendre conscience de cet espace différencié des responsabilités. C'est-à-dire que si le but du discours patrimonial de Brédif, c'est de démontrer qu'il n'y a pas d'autre gestionnaire possible de la nature que les céréaliculteurs et les forestiers, dans leur apprentissage propre, débarrassés de la pression désagréable et non conviviale des acteurs environnementaux, si leur but c'est ça, alors on comprend que ce n'est pas possible de discuter, puisque justement leur but c'est que cette discussion ne puisse pas avoir lieu. Mais ça n'est qu'une des... Alors, donc, il y a certainement une dimension de cette sorte-là. Mais on ne peut pas faire l'hypothèse qui est que ça, d'une certaine façon. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est aussi réfléchir à, en imaginant qu'ils soient prêts à admettre qu'eux roulent pour des intérêts X ou Y, et qu'il y a d'autres gens qui défendent d'autres intérêts de la société. Admettons qu'ils reconnaissent ça. Est-ce que leur cadre théorique peut tenir s'ils admettent ça? C'est pas sûr. C'est ça qu'il faudrait regarder. Et donc, si leur cadre théorique ne peut pas tenir s'ils admettent cette pluralité des regards, hein, d'une part, le regard des industriels sur eux-mêmes et leur action environnementale, et puis le regard des environnementalistes sur eux, c'est deux regards complètement différents. Si leur théorie, dans sa construction, ne peut pas résister, alors ils n'ont pas d'autre solution que de la défendre jusqu'au bout. Et donc, d'être dans une logique de forteresse et de refus de la discussion. C'est ça l'enjeu qui nous reste à découvrir dans la suite du débat. En tout cas, pour l'instant, j'ai construit la séance sur l'hypothèse que la discussion n'était pas possible et que l'objectif, en tout cas en ce qui concerne le patrimonial au sens strict, c'est plutôt d'enregistrer et de rendre public les critiques de manière détaillée, depuis le niveau terrain jusqu'au cœur de la théorie. Alors maintenant, on arrive au dernier volet. Ça ne va pas être très très long, mais c'est là qu'on va pouvoir réexprimer sous une forme plus générale ces questions. Dans une première version, j'avais appelé ça les approches PANAC ou panacées, patrimoniales, néo-patrimoniales et apprentissage collectif. C'est vrai qu'il y a un côté panacé là-dedans. Donc, vous avez vu, on va voir quel est le socle commun de ces approches. Donc, je vais procéder en deux temps, en fait, c'est ce que j'ai mis dans le plan. Je vais faire quelques constats sur le socle commun des approches, et ensuite, j'ai quatre ou cinq transparents où on va aller au fond du concept d'atrologie, d'atronomie, d'atro, tout ce qu'on veut, et qu'est-ce qui ne va pas dans la manière de fabriquer de l'unité de ces approches. Donc, il y a beaucoup de points communs dans la posture affichée, les concepts clés, la position du chercheur. Un autre point commun, un des points communs, c'est la mise en scène d'une innovation en rupture. C'est amusant de voir que Franck Agiri, exprimant ce qui est en fait la doxa actuelle, la pose en rupture par rapport au discours précédent. Donc, on nous explique qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est vrai en 76, c'est vrai en 97, c'est vrai en 2000 avec Agiri. Chaque fois, c'est présenté comme une révolution. Or, quand on nous présente un choix manichéen, soit on est écolo, administratif, machin, etc., soit on est pour une approche évolutive, un apprentissage collectif. Quand on met en scène ce choix manichéen et qu'on nous explique qu'en fait, c'est pas vraiment un choix, puisque l'un c'était avant et l'autre c'est maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, un des côtés est en train de gagner comme s'il avait déjà gagné, eh bien on a la formule d'une pensée unique, si je vous mets devant un choix comme ça, ça veut dire que je vous propose une pensée unique. Donc, ce à quoi on a affaire, c'est une proposition de pensée unique. L'ambiguïté assez amusante, c'est finalement cet affichage de position de rupture, se combine avec une position du chercheur qui est directement au service des acteurs les plus puissants, c'est-à-dire des acteurs sectoriels qui ont l'argent, les capacités techniques, le pouvoir sur l'objet d'une certaine façon. L'autre deuxième point commun, l'impensée sectorielle qui sous-tend cette idée de gestion en bien commun, ça je pense que pour Ray c'est un acquis, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de repartir dans l'analyse des discours. Encore une fois, l'impensée sectorielle, il ne dévalorise pas le discours. Le fait de mettre en évidence l'impensée sectorielle, ça permet de leur interdire de dire « ne nous dites pas que vous parlez au nom de tous ». Ce que vous faites, c'est que vous faites des propositions pour tous au nom de votre secteur. De la même manière que nous assumons le fait que nous faisons des propositions pour tous au nom d'une préoccupation particulière qui est celle de l'environnement. Assumez le fait que vous êtes des acteurs, un acteur parmi les acteurs multiples quand vous parlez et que les autres acteurs, autant que vous, font des propositions pour tous. Vous n'avez aucune raison de revendiquer le fait que vous seriez les seuls à avoir une vue d'ensemble, ça vaut pour tous ceux dont on a parlé, ou la capacité à être le créateur de l'unité, ça vaut pour les patrimoniaux et les néo-patrimoniaux. Assumez aussi le fait que tantôt vous travaillez pour des acteurs des secteurs productifs, tantôt pour des acteurs régulateurs, et qu'en fait, votre ancrage en termes de pouvoir dans le système, c'est que vous êtes au service de l'alliance ou de la confusion entre un acteur sectoriel et l'acteur de la régulation politique. Alors, pourquoi ce point de vue est si puissant, ce point de vue de l'apprentissage collectif et du patrimonial et du néo-patrimonial? Essayons de réfléchir à la situation. Imaginons quelqu'un qui promeut ce discours. Quelle réaction il va avoir en face de lui? D'une part, les acteurs sectoriels, ici les agriculteurs, les forestiers, les industriels. Pour eux, l'approche est progressiste. Il ne faut pas se cacher le fait que du point de vue des industriels qui ont résisté en partie à l'environnement jusqu'ici, le fait de se mettre en posture d'apprentissage collectif en disant « arrêtez de nous embêter, on va commencer à travailler nous-mêmes » n'est pas une démarche négative. Donc, déjà, il y a une perception d'une démarche de progrès, vue du point de vue purement sectoriel. Deuxièmement, c'est pour ces acteurs-là, ce cadrage-là est pain béni, puisque non seulement en interne, il constitue une démarche de progrès, on va apprendre ensemble, on va apprendre à notre rythme, etc., mais vis-à-vis de l'externe, il offre tous les outils pour casser les revendications des autres. Donc l'adoption est très facile pour les acteurs sectoriels. Du point de vue de l'acteur d'environnement, quand il est en position de faiblesse sociopolitique, ce qui est le cas à chaque fois dans les périodes clés dont j'ai parlé. Le début des années 80, ça a été une période terrible pour les acteurs d'environnement en France. La fin des années 90, au niveau international, c'est le green backlash sur les acteurs d'environnement. Le début des années 2000, c'est l'explosion du discours développement durable dans l'entreprise qui met en difficulté les acteurs d'environnement. Eux, ils ont beaucoup de mal à lutter contre cette démarche, puisque ça reviendrait à nier son côté progressiste. Vous n'allez pas dire à des gens que c'est nul de se mettre à prendre à leur charge les problèmes d'environnement. Deux, l'approche leur laisse une certaine place, donc ils ne peuvent pas se plaindre d'être exclus, puisque tout le monde est inclus. Et puis, malheureusement, ça limite complètement leur perspective d'évolution, mais dans des termes qui sont difficiles à expliquer. Le travail de démontage que je vous ai proposé, il n'est pas immédiat. Face à cette diarrhée verbale de l'intérêt de tous, etc., le démontage qui montre pourquoi, fondamentalement, ça rend difficile à porter les questions environnementales les revendications environnementales de la société, va pas de soi. Donc l'acteur faible, il est obligé de jouer un peu le jeu, et c'est ce qu'on voit. Nous, on est surpris de voir des acteurs environnement qui, finalement, tiennent ce discours. En partie, en tout cas. Et du point de vue de l'ensemble des acteurs, des gens moins informés, de l'élu politique, etc., etc., lui, il voit une approche bien intentionnée, une approche qui n'est jamais menaçante, puisqu'il y a toujours des clauses qui disent qu'il faut que les rapports soient acceptables par les commanditaires, qu'ils soient acceptables par tous, etc. L'apprentissage doit être collectif, donc tout le monde doit être d'accord. Donc c'est bien intentionné, non menaçant, ça va dans le bon sens. Et puis, de manière un peu plus machiavélique, ça rend beaucoup plus difficile l'exercice d'une démocratie très critique et l'évaluation de l'efficacité ça sape l'évaluation de l'efficacité des politiques. J'essaie pas de dire que les politiques se réjouissent en sautant de joie de ça. Mais en tout cas, ça les incite pas à refuser ce type d'approche. Et donc, du coup, la possibilité d'un vrai débat critique sur ces approches est très difficile dans le contexte réel. Surtout que, au niveau des chercheurs, on est dans une situation où c'est les acteurs sectoriels qui maîtrisent les instituts de recherche en partenariat avec les élus régulateurs et où il existe très peu de perspectives propres du point de vue de l'acteur d'environnement pour développer un discours et des recherches et qu'en plus, il a du mal à attaquer frontalement parce que le point faible de la démarche n'est pas très visible. Donc on comprend mieux comment cette doxa se répand à toute vitesse et est très difficile à mettre en discussion critique. Donc pour les chercheurs, ça permet une grande souplesse dans l'approche des terrains. On le voit quand on lit Agiri. C'est pas parce qu'il a ce cadrage très restrictif que ça l'empêche de voir les réglementations environnementales, les associations environnementales, les entreprises XY, les entreprises qui sont à la traîne. Donc, on peut très bien concilier une description de terrain opportuniste qui permet de parler de tout avec un cadrage qui interdit de parler de certaines choses et qui arrange plutôt certains que d'autres. Donc ça veut dire que les résultats de terrain sont difficiles à critiquer, puisque le chercheur va dire « Oui, vous me dites que je ne parle pas des acteurs d'environnement, mais dans l'étude de cas d'Agiri, voilà, j'en parle. » Ah oui, mais dans l'interprétation théorique, rien n'est présent, rien de la construction environnementaliste des problèmes environnementaux. Donc, ça, c'est très souple. Deuxio, ça affiche une ambition panagorique, c'est-à-dire universaliste. Ça, c'est je fais référence à la thèse de Sébastien. Là, on est dans un véritable paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut pas prendre des outils universalistes, mais nous, on a une démarche non universaliste, mais universelle. Ça, c'est un des paradoxes bizarres du patrimonial. Et puis, bizarrement, ils ont une sensation d'engagement, d'être dans une rupture, dans un nouveau système au profit de tout le monde. Vous avez vu le lyrisme étonnant de Brédif. Tout en bénéficiant des flux de financement et du pouvoir des institutions sectorielles. Voilà. Le chercheur ne prend pas parti. Ou plutôt, grâce à la théorie de l'apprentissage collectif, le problème, on apprendra ensemble quel il est. Ou grâce à la négociation patrimoniale, le problème, on se mettra tous d'accord pour savoir quel il est. Le chercheur prend parti d'avance en faveur de ce qui aura été voulu par tous, c'est-à-dire finalement en faveur des gagnants. Difficile de résister. Ce qui me paraît important, c'est de voir que ces dérives, elles étaient latentes dans la démarche patrimoniale. Je reprends dans le tableau toujours les mêmes affirmations de la littérature de 1976 et je vois que chacun des points peut servir de point d'appui dans un levier pour rendre difficile à tenir des revendications environnementales. Pluralité des acteurs et des points de vue. Les revendications environnementalistes ne sont qu'un point de vue parmi d'autres sur l'environnement, donc on en interviewera 2 sur 25. Titularité, appropriation, identité, eh bien ça légitime le pouvoir de fait. Ceux qui sont des titulaires, qui ont leur identité, alors l'identité de vallée, ça c'est un des concepts très amusants de l'audit patrimonial. Dans le cas de l'Ours, il y a une identité valéenne, et puis alors dans la vallée de l'Ars, qui fait 20 km sur 2 km près de 3, il y a un esprit de vallée. Un esprit de vallée. Donc voilà, on légitime le pouvoir de fait des viticulteurs sur la flotte en Champagne. Conception relationnelle et évolutive, ça neutralise toute volonté d'évoluer l'efficacité environnementale par rapport à des critères précis, puisque les critères sont glissants. Privilégier la négociation, ça revient à dire qu'on légitime le fait de travailler au prorata des rapports de force. Négociation, par définition, ça veut dire décision obtenue par l'accord de tous. Donc ça interdit de faire quoi que ce soit qui puisse ne pas être accepté par les pollueurs. Etc. C'est pas la peine de continuer. On voit que les dérapages étaient inscrits dans la matrice, qui était une rupture avec la technocratie, portait en germe les dérapages qui ont été constatés. il faudra y revenir dans le dernier mot. En un mot, au moment même où on sortait du paradigme du surplomb, en posant ces points patrimoniaux-là, on posait aussi les bases de la dérive de l'empire du sens, que je constate aujourd'hui, et auquel j'essaye, avec les conférences RES, de poser des bases pour qu'on puisse en sortir. Et c'est devant ces dérives que je voyais déjà en 82, dans les discussions avec Olagnon et même parfois avec Berthier, que je me suis dit, il ne faut pas partir dans cette direction-là, il faut prendre une autre voie. Alors, dernier point sur les constats de base, c'est qu'on est loin d'être dans un cas isolé ou uniquement français. Toutes ces approches patrimoniales, néo-patrimoniales et d'apprentissage collectif, elles s'inscrivent quand même dans un grand mouvement mondial qui va dans le même sens, décentralisation, modélisation participative, toutes les théories qui reviennent à prendre acte des transformations plutôt qu'à poser des revendications. Toutes les théories qui reviennent sur l'identité, l'appropriation locale des ressources, etc. Et puis, tout le discours sur l'intégration, le développement durable, qui, de manière moins caricaturale, porte par certains aspects la matrice de problématiques patrimoniales. Alors, maintenant j'attaque la dernière ligne droite, mais elle est en pente. Alors, je vous ai dit en commençant que, avec des connotations saugrenues mais qui me plaisent, le mot atros en grec, ça veut dire d'un seul coup, en une seule fois, comme si les choses devaient prendre en gelée en une seule fois. Donc, par exemple, on se rue tous ensemble à l'assaut de l'ennemi atros. C'est pas un mot très fréquent, hein, mais on le rencontre. Je l'ai rencontré. Alors, pourquoi je propose de l'utiliser ? Parce qu'on a bien vu que ce qui est au cœur du problème patrimonial, c'est une mauvaise manière de joindre le multiple et l'un, d'essayer de fabriquer de l'unité avec la multiplicité des points de vue. Mais ce n'est pas d'unité dans l'absolu qu'il s'agit, c'est bien d'unité d'action, c'est-à-dire d'intervenir ou de faire en une seule fois. Et cette unité frauduleuse, cette unité mal avisée, pour reprendre la citation de Platon, elle porte sur quatre points. D'abord, elle veut réunir tous les problèmes en un seul. Il n'y a pas un problème de qualité de l'eau, il y a un problème global de tout le système social de la vallée. Il y a un seul problème qui s'appelle la qualité globale dans la démarche d'opinion d'Olagnon. Ça ne sert à rien de résoudre tel ou tel ou tel problème, il faut les grouper en un seul pour tout traiter en une seule fois, c'est le système qu'il faut gérer. Deuxième mouvement atrotropique, il faut réunir tous les acteurs en un seul. Ça n'est pas logique que d'un côté, les acteurs de l'équipement fabriquent des routes, que de l'autre côté, les acteurs de l'environnement essayent de protéger l'environnement, et que d'un troisième côté, les acteurs agricoles pompent pour irriguer, vu par les gens qui sont dans cette perspective atrologique. Ce qu'il faut, c'est réunir tous ces gens-là, j'ai fait plusieurs citations dans la conférence, réunir tous ces gens-là pour qu'ils deviennent un seul acteur et que, enfin, l'action soit unifiée et dépasse les logiques sectorielles. La troisième point, c'est que très souvent, on rencontre, notamment dans l'approche patrimoniale, l'idée d'agir en une seule fois. Alors, elle paraît contradictoire avec l'idée d'un processus qui se déroule dans le temps, mais en fait, quand on lit aussi bien Olagnon que Brédif, il y a bien l'idée qu'il va y avoir une révélation. C'est-à-dire que l'auditeur patrimonial fait surgir de l'ensemble des expertises une expertise d'ensemble, et après, c'est complètement différent d'avant. Il y a une transformation instantanée qui s'accomplit, qui fait que les gens ne peuvent plus voir, dans leur théorie en tout cas, que les gens ne peuvent plus voir les choses de la même manière, et donc que d'un seul coup, la situation s'est transformée. Parce qu'on a créé une unité de problème et d'action, à un moment, plouf, ça bascule. Et dans certains cas, et c'est encore une fois le cas du patrimonial tel qu'il est défendu par Brédif et Olagnon, on fait tout d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on fait en même temps la recherche et l'intervention. L'audit, on ne peut pas dire en quoi il est une recherche et en quoi il est une intervention. On fait tout d'un seul coup. Je transforme le système d'un seul coup en faisant une intervention qui est d'un seul coup à la fois une recherche et une action. Alors là, on pourrait dire, oui, mais c'est bien ce que nous dirait, ce que la théorie fait. Vous rappelez la citation de Deleuze, la théorie est une action. La différence, c'est que dans un cas, on reconnaît que la théorie est une action, qu'elle doit rendre des comptes comme une action, mais on ne postule pas que c'est une seule et même chose. On continue à pouvoir parler de la théorie dans un langage théorique, de l'action dans un langage d'action, de mettre les deux en dialogue. On dit que les deux sont liés dans une dialectique, qu'elles font partie d'une même chose, mais on ne s'interdit pas de que chacune rende à son César ce qui est à son César. Notamment, par exemple, qu'elle rende des comptes sur le plan académique. On s'interdirait certainement de répondre. Quand Olagnon est rentré à l'agro, il disait qu'il avait de mauvaises relations avec les profs de l'agro, qui lui disaient « Mais qu'est-ce qui valide tes recherches ?» Et Olagnon leur répondait « Mais la validation est sociopolitique, c'est-à-dire que les acteurs les payent et les adoptent. » Ce genre de court-circuit qui dit que ça n'est qu'une seule chose, l'action et la théorie, et qui interdit d'avoir une discussion théorique sur ce couple action-théorie, ou une discussion pratique sur ce couple action-théorie, c'est ça qui est atro-maniaque et qui pose problème. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces quatre tentations, elles sont présentes à des degrés très divers dans beaucoup de démarches. Il y a beaucoup de démarches autour de nous qui essayent de dire « il faut ramener ça à une unité, un problème unique, gestion intégrée, on va avoir une approche globale, ou bien il faut un acteur unique, il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on fasse ensemble un schéma d'aménagement des eaux qui va reprendre les logiques de tous les acteurs. » Donc, le besoin, c'est même un besoin logique, de chercher cette unité. Le problème n'est pas dans le fait de dire il faut qu'on construise une unité de problème ou il faut qu'on travaille en dialectique entre la multiplicité des problèmes des acteurs, etc. Puis la tentative pour construire une unité des problèmes des acteurs. Ce qui pose problème, c'est quand ça va trop vite, quand c'est fait en sautant les étapes, quand c'est fait avec des raccourcis abusifs. C'est ça qu'il faut qu'on trouve autour de nous, sur quoi on mette le doigt. Mais ce que possède la doctrine patrimoniale, qui est extraordinaire et qui en fait un analyseur génial du phénomène, c'est qu'elle revendique d'emblée, de manière explicite, le bon direct sur chacune des quatre dimensions. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle dit « oui, il faut chercher cette unité jusqu'au bout, et pas simplement l'utiliser comme un moyen pour travailler ensemble, il faut la chercher jusqu'au bout, elle est réalisable, et nous, on a une méthode qui permet de la fabriquer ». Et donc, ce qui fait de la démarche patrimoniale un analyseur absolument génial, c'est que elle nous propose sans embâche d'y aller directement. Et donc, l'explicitation de ces désirs d'unité devient un véritable fantasme, en fait. Et du coup, ça, c'est un révélateur. C'est comme ça que chez Agiri, on peut voir. Une fois qu'on a vu ce qu'il y avait là-dedans, on voit beaucoup mieux dans le texte d'Agiri comment ça fonctionne. Et dans d'autres qui seraient beaucoup moins critiquables et plus subtils, on trouvera peut-être d'autres éléments de saut indu, de synthèse abusive, etc. C'est un analyseur parce que c'est un extrême. Et paradoxalement, c'est pour ça qu'elle a réussi à traverser les ans sans bouger. C'est un peu l'œil du cyclone. C'est le... Comment dire, eux vont direct. Tous les autres se rendent compte qu'il y a quelque chose qui pose problème dans le fait de penser qu'on peut tout faire d'un coup soi-même. Et donc, ils trouvent des compromis dans leur construction. Eux disent on ne veut aucun compromis. Et en tant que tel, ils constituent un vrai pôle d'idées et un analyseur pour nous génial. Alors, quel est le programme au fond pour sortir de ça ? Quel est le problème de cette spirale atrologique qui veut nous emmener directement vers l'unité sur les quatre plans ? Le problème, c'est qu'elle écrase toutes les lignes dialogiques, c'est-à-dire toutes les tensions et les structurations des situations. À la fois les situations qu'on étudie, puis les tensions dans la démarche de recherche. En effet, toute gestion, et encore plus si elle est publique, repose sur une architecture de tensions. Entre ceux qui veulent des zones humides, ceux qui veulent l'agriculture, entre le local et le global, entre le juridique et le non-juridique. Il y en a plein, ce sont les polarités que j'essaie de conceptualiser dans le texte sur les barrages, avec les trames, etc. Donc, toute analyse sérieuse de gestion se construit en expliquant quelles sont les polarités dialogiques qu'on va traiter, comment elles fonctionnent, et comment on peut tenir dans la même analyse le constat que les acteurs sont divers ou que les niveaux sont divers ou que des choses sont opposées et qu'en même temps, elles constituent une unité organisée qui fonctionne. C'est comme ça que se construit une analyse de gestion. Et donc, c'est toutes ces polarités que l'approche patrimoniale casse les unes après les autres. Vous rappelez de toutes les fausses alternatives que j'ai énumérées progressivement, on va les réénumérer très vite. Elle disqualifie toutes ces oppositions qu'on pourrait dire dialectiques, mais qu'il vaut mieux dire dialogiques, pour les remplacer par ce saut direct, ce bond direct vers l'unité que j'essaye de qualifier par ce radical atroce. Alors, on va les lister très rapidement parce qu'elles nous donnent un programme de démontage pour les approches qui souffriraient à des degrés divers de la maladie atromaniaque. Alors, première série de dialectiques écrasées qui portent sur l'expression de l'analyste. D'abord, on prétend que l'analyste se situe du point de vue de l'unité. Ça n'est jamais vrai, l'analyste est quelque part dans le système, donc on peut entrer en dialogue sur ce point-là. Ah, toi, tu te situes du point de vue de l'unité, pourquoi, comment, et rétablir la dialogique sur ce point-là. Deux, l'analyste Zise a vocation à englober tous les points de vue, et les points de vue sont considérés comme partiels par hypothèse. Ça ne va pas du tout, puisque n'importe quel point de vue, même totalisant, est partiel aussi. Il est situé aussi. Donc, on peut réouvrir la dialogique vis-à-vis de ceux qui essaient d'écraser cette dialogique-là. 3. L'analyste possède un monopole de la vue globale de la situation et tous les autres ont des vues partielles. Faux. Il faut repartir dans une optique où on considère que tout le monde a à la fois une vue locale et est un acteur dans le système, et peut aspirer à la dignité d'une vue globale. Et d'ailleurs, quand on fait des entretiens, n'importe qui ayant fait des entretiens, s'il continue à penser que l'analyste est le seul à avoir la capacité à une vue globale, c'est vraiment qu'il a quelque part un problème d'ego, quoi, ou un problème de statut dans le système. Quatrième dialogique écrasée, je l'ai mise en italique parce que toutes les approches atronomique ne partage pas ça. Agiri, par exemple, il ne va pas nous dire que l'analyste est l'opérateur concret de l'unification. Donc ça, c'est la variante ingénierique de ceux qui disent « En faisant mon opération de recherche, je fabrique l'unité concrète des acteurs. » Je pense que ce serait pas idiot d'aller regarder du côté des jeux de rôle et des multi-agents pour voir en quoi il y a une dialogique écrasée de ce côté-là. Maintenant, les dialogiques écrasées en ce qui concerne les tensions constitutives de la gestion environnementale. Il y a un certain nombre de tensions de base qui sont constitutives des situations environnementales. 1. On refuse que soient attribuées des responsabilités spécifiques parce qu'il y a une seule responsabilité. Donc ça, on a vu les problèmes que ça posait, on peut dire non. Il y a des responsabilités distribuées. On est fondé à s'interroger à la fois sur la distribution des responsabilités et sur les effets de système globaux de ces responsabilités et de rétablir cette dialogique-là. 2. On refuse ou on minore l'utilité de l'action militante, n'importe laquelle d'ailleurs, hein, y compris l'action militante intra-administrative, le chef du bureau du ministère de l'Environnement qui va essayer de réouvrir une porte au ministère de l'Équipement, et les perspectives analyse critique. Là encore, il faut réouvrir cette dialogique. 3. On impose un principe du constructif. C'est-à-dire que on impose l'idée que tous les problèmes devraient se résoudre par la négociation. Et donc, que toute tentative pour changer le rapport de force serait illégitime dans le cadre d'une tentative de résolution commune du problème. Donc là, je renvoie à tous les travaux qu'on a fait sur le fait de remettre de la critique dans la négociation et de remettre la négociation à sa place par rapport au conflit et à la coopération. 3, j'aurais dû le mettre celui-ci en italique. Il propose le territoire comme acteur intégrateur. Donc ça, c'est le cas dans la thèse de Brédif. C'est le cas dans énormément d'approches actuelles qui, à mon avis, relèvent à un certain degré du syndrome atrotopique, c'est le fait de dire l'intégrateur, c'est le territoire. Nous, on connaît l'unité concrète. qui est opératrice de l'unification de tout, c'est le territoire. Non, il y a beaucoup d'autres unités. C'est pareil pour le bassin versant. On ne peut pas dire que le bassin versant, on connaît que c'est ça l'opérateur de l'unification. Et donc, on peut réouvrir ça. Donc, pour ceux qui sont dans la variante où c'est le territoire, l'opérateur d'unité, régulation territoriale, eh bien, on peut dire, attendez, deux secondes, il faut réouvrir ça. Et puis, pour finir, il y a aussi une négation d'un certain nombre de dialogiques qui sont inhérentes à n'importe quel système humain, à n'importe quel système d'acteurs. Première erreur, c'est celle qui attribue un supplément d'humanité ou d'identité à certains acteurs. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans la séance RES 5, dans cette même salle, ou RES 4, et RES 4. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a des acteurs qui sont détenteurs d'une vraie humanité et les autres ne sont pas complètement humains. Autre dialogique écrasée, on ne dialogue pas à égalité avec ces acteurs-là, il n'y a pas de dialogue. Autre, c'est qu'on suppose qu'il existe quelque part un supplément de négociation auquel l'analyste a accès, mais pas les acteurs. Il y a énormément de passages dans la thèse de Bredif où il répète que les acteurs ne savent pas négocier, n'arrivent pas à négocier, ne se rendent pas compte des positions les uns des autres, et donc on est dans une négociation complète du fait que les acteurs possèdent déjà une capacité de négociation, et on postule qu'il existe une réserve extraterritoriale de négociation à laquelle les acteurs ont accès. Ensuite, on pose une obligation de négocier, donc ça écrase la dialogique entre le conflit et la coopération, en obligeant à bloquer sur la seule position de négociation en interdisant le conflit. Et puis, on pose que celui des acteurs qui a pour objectif de tout ramener à une unité, donc l'acteur atrotélique, vous avez reconnu le portrait de l'auditeur, celui-là est dans une catégorie à part qui l'exonère des conditions dialogiques que les autres acteurs ont entre eux. Donc, en faisant ça, avec ces trois transparences, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que si on veut maintenant aller chercher dans des formes moins caricaturales de dérives vers des unités abusives d'analyse ou d'action, on a un certain nombre de pistes sur des dialogiques à rétablir qui permettraient d'aller dans cette direction-là. Donc, l'atronomie, c'est le fait de poser l'unité comme norme, comme principe, et de considérer que ce principe d'unité est opposable au jeu des acteurs. C'est-à-dire que, à tout moment, dans l'approche patrimoniale, on est dans une situation où l'auditeur patrimonial s'autorise à dire à un acteur « Mais toi, tu n'as qu'une approche partielle, moi je parle pour l'unité, et donc il n'y a pas photo, c'est l'unité qui a raison. » C'est ce ressort-là qui permet à l'approche patrimoniale de fournir à un acteur sectoriel un outil qui leur permet de disqualifier d'emblée les autres, tout en ayant l'air d'organiser une discussion. Il est évident que dans cette liste des principes atronomiques, on lit en creux toutes les bases, toutes les exigences dialogiques d'une approche pluraliste, on lit toutes les bases de ce qui fait la SGE, c'est-à-dire on va reconstruire les principales dimensions dialogiques pour comprendre comment à chaque fois il y a à la fois un jeu du multiple et une dynamique systémique d'émergence, donc un jeu unitaire qui se joue et tous les acteurs ont la même possibilité et la même dignité de jouer aux deux niveaux et il est hors de question de se laisser raconter qu'il y a des gens qui ont un tapis volant qui leur permet de sauter directement de la multiplicité à l'unité puis de s'affranchir de leurs propres intérêts partiels. Et donc, on peut partir en discussion avec eux en disant, au fond, quelle dialogique assumez-vous ou n'assumez-vous pas ? Quelle dialogique vous rejetez ou vous minorez ? Et je pense qu'on a un algorithme pour ouvrir la discussion dans beaucoup de cas. Donc là, on arrive à la conclusion avec trois transparents. On a bien vu que le syndrome patrimonial, c'est un analyseur, je pense, d'un phénomène beaucoup plus large qui est ce syndrome atronomique qui se cache derrière l'empire du sens et qui nous dit que la pluralité n'est pas pertinente, que l'unité est pertinente par elle-même. que moins il y a de niveaux intermédiaires, mieux la capacité à rentrer en unité se porte. Et donc, évidemment, les questions qu'il faut se poser sont symétriques de celles-là. On est vraiment au degré zéro de la théorie de la gestion sociale de l'environnement. Parce qu'au fond, ce que ça fait ressortir par contraste, cette analyse de la gestion patrimoniale, c'est qu'une bonne théorie de gestion, de la gestion environnementale, c'est une théorie qui est capable de rendre compte des étapes et des intermédiations par lesquelles on passe de la pluralité à l'unité et réciproquement. Et là, on mesure la distance entre l'approche patrimoniale et puis Boltanski et Thévenot ou la démarche de Latour qu'on a vue dans les deux séances précédentes de RES. Boltanski et Thévenot, ils sont aussi dans une problématique où on se demande comment, avec une pluralité de gens qui sont en désaccord radicaux sur plein de choses, on peut fabriquer une unité politique d'action. Mais eux sont clairs sur le type de médiation, pas médiation au sens du médiateur, mais médiation au sens de construction intermédiaire par lesquelles on passe. Ce sont les cités, ce sont les mondes, ce sont les grammaires. Donc, loin de sauter de l'un au multiple sur un tapis volant, ils nous construisent des échelles pour passer de l'un au multiple. Et de la même manière, sur Bruno Latour, on voit bien qu'il y a une unité, c'est le collectif, il y a un multiple, c'est tous ces agents humains et non humains, mais on voit bien par quelle connexion, par quelle mise en connexion, on passe de l'unité au multiple. Donc c'est des théories qui, elles, ne font pas l'impasse sur les modes de passage. On a des discussions avec elles, parce que nous, on s'intéresse aussi à d'autres modes d'impasse, et puis elles s'intéressent à d'autres, mais on est dans une vraie discussion. On n'est pas dans une fausse discussion avec un fantasme atrologique. Et donc, je crois que là aussi, on éclaire beaucoup l'état de nos avancées théoriques et des types de discussions qu'on peut avoir avec ceux qui, comme nous, acceptent de jouer le jeu, de dire par quelle dialogique on passe de l'unité globale du système à la pluralité des agents. Donc, pour conclure, je clôt par là le cycle de trois séances dans lequel j'ai mis en discussion d'autres théories. On voit bien qu'il y a une vraie clôture parce qu'on revient sur ce qui fait l'intérêt des autres théories et on a maintenant un programme de discussion qui nous permettrait de discuter avec encore bien d'autres approches. Donc on ne va pas continuer indéfiniment à discuter d'autres approches. Deux, je clôt par là le cycle au sein de REST sur la démarche historique de la SGE, comme on en est venu là. C'est très important de vous rappeler que dans l'article qu'on a fait ensemble, il y avait 10 lignes qui disent on partage certaines choses avec la gestion patrimoniale au sein de laquelle est née la SGE. Donc je pense que là maintenant ça c'est beaucoup plus clair. On voit ce qu'on partage avec eux. Par exemple, l'idée qu'une qualité environnementale émerge d'un effet de système, elle est totalement commune, elle vient de là. Par contre, il y a un certain nombre d'autres choix qui sont faits par la démarche patrimoniale et qu'on ne partage pas du tout. Et on voit qu'en fait, le projet de la SGE, il est beaucoup ancré sur le fait de dire non. Il faut résister à la tentation atrologique et il faut se donner pour projet d'assumer les dialogiques ou les dialectiques qui construisent ensemble la gestion environnementale. Il faut accepter que la gestion du système n'est pas une unité de gestion, mais une gestion plurielle de gens qui, tout en étant chacun partiaux, réfléchissent chacun pour sa part et en discussion ensemble aux effets d'émergence de ce qui se produit. Donc là, on peut finir ce cycle historique. On sait comment les choses sont nées, comment elles se sont embranchées, à quel moment et comment les idées ont évolué et pourquoi, en fait, on est parti dans une certaine direction. Et donc, enfin, le cycle, d'une certaine manière, on peut maintenant repartir vers la dernière partie du cycle de conférence RES, tout simplement parce qu'on a atteint le degré zéro. On a compris quel était le point aveugle des approches avec lequel on essaye de rentrer en discussion, c'est-à-dire celle de l'unité non justifiée et de la partialité non assumée. Et donc, le programme est maintenant beaucoup plus clair, et ça veut dire qu'on va pouvoir entrer en discussion dans des termes encore plus précis que jusque-là, en pouvant expliciter mieux nos critiques, tout en reprenant toutes les critiques sur la sectoralisation de la gestion intégrée, etc., etc., Et maintenant, au fond, ce qu'il nous faut, c'est faire la dernière partie du cycle RES. On est libéré de ce tropisme, puisqu'on allait jusqu'au bout. Ce qu'on reprochait partiellement à Latour et à Boltanski et Thévenot, c'est-à-dire le fait de nier certaines dialogiques, etc., maintenant on peut le mettre en perspective. On peut dire, voilà, nous on est prêt à discuter avec des gens qui assument les dialogiques. On est prêt à assumer, aller vers la dernière ligne droite de RES, avec une séance qui portera sur le nouveau pacte critique, comment on fonde un pacte critique pluraliste. Une séance qui portera sur une formulation de la SGE éclairée ou complétée à la lumière de toute la réflexion du cycle et qui reviendra sur les questions d'organisation et de stratégie. Et puis, une séance analytique sur notre propre position. On se retrouve tous depuis le 1er janvier enseignants-chercheurs au sein d'un grand établissement qui s'appelle Agro Paritech. Comment on peut enseigner l'environnement au sein de l'enseignement supérieur agricole. Je ferai aussi une conférence de réflexive là-dessus avec les enseignants pour les enseignants du grand établissement. Je ne l'envisage pas sans stress, mais je pense qu'elle est indispensable pour clarifier la situation. Et puis, dernier point, il faudra aussi formuler quel terme de discussion on peut proposer sur ce qu'on a fait à nos collègues de sciences de gestion, par exemple ceux de l'ERFI. Est-ce que les propositions théoriques qui sont les nôtres peuvent avoir une portée au-delà de la gestion environnementale? Je pense que oui. Je pense que d'une certaine façon, on peut mettre en parenthèse le E de ASGE pour dire qu'on a des bases théoriques d'une analyse stratégique de gestion. Je voudrais mettre ça en discussion avec nos collègues de l'ERFI, à voir si ce sera une séance à part ou si ce sera dans la séance sur la SGE. Donc il nous reste devant nous, selon le cas, 3 ou 4 séances du cycle. Et comme dernier mot, je dirais, voilà, je suis désolé d'avoir été long. C'était une séance un peu particulière, mais dans l'absence de dialogue avec les approches patrimoniales, il me paraissait important qu'au moins une fois les choses soient dites dans tous leurs aspects historiques, théoriques et de remise en question idéologique pour que les choses soient posées et qu'on n'ait plus d'une certaine façon à y revenir dans ces termes-là en disant oui, le patrimonial, machin et tout. Je pense qu'on peut passer vraiment à autre chose et je suis désolé si ça a été un peu long.